Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et aujourd'hui, tu as rendez-vous avec Mimi et Fab. Il faut savoir que selon un sondage réalisé par Kappa, 13% des Français sont amis avec leur supérieur hiérarchique. Et ça a été le cas de mes deux invités du jour. Fab, de son vrai nom Fabrice Florent, a créé en 2005 le webzine féminin et féministe Mademoiselle. Aujourd'hui, il a vendu son entreprise et il est créateur de contenu très actif en podcast, mais aussi sur Twitch et sur YouTube. Et il raconte son amitié avec Mimi. Mimi, elle a 15 ans de moins que Fab. Elle a été embauchée chez Mademoiselle comme stagiaire. Puis petit à petit, avec son talent et ses compétences, elle a gravi les échelons pour être aujourd'hui rédactrice en chef. Ils racontent leur histoire et la difficulté parfois de trouver un équilibre entre relations amicales et relations professionnelles. Et on revient aussi sur les grosses tempêtes qu'ils ont dû affronter, comme par exemple Bademoiselle en 2016. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité. Pas de légitimité à être jalouse, par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie, il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps.
L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants.
You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there.
À quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment?
N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié?
Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami.
Salut Fab, salut Mimi.
Salut Solène.
Maintenant, vas-y, viens, on le refait à trois.
Okay.
Un, deux, trois.
Salut Solène. Merci de me recevoir chez toi, Mimi, et merci d'accepter de témoigner et de partager votre histoire d'amitié donc dans Friendship. Pour commencer, j'aimerais, Mimi, que tu présentes Fab, et Fab, tu présenteras Mimi. Ok.
Je t'avais dit qu'il fallait qu'on écoute le podcast pour savoir les tricks.
Mais non, c'est trop marrant d'être en impro. Fabrice Florent est un de mes meilleurs amis, c'est aussi mon mentor, c'est un grand gaillard, entrepreneur et créateur de contenu, plein d'idées, d'énergie et de vulnérabilité, qui a la quarantaine, qui est divorcé, père de 2 enfants, esprit ouvert et curieux, et un peu trop fan du disco trop tôt le matin. Parole de personne qui a subi du disco à 9h du matin, beaucoup de fois dans sa vie.
Pendant longtemps. Je vais prendre ça et le mettre dans ma bio Tinder.
Allez.
Franchement.
Source mimi de mademoiselle.com.
Exactement. Donc Myriam Hegel, de son nom, qui est d'origine alsacienne, faut le savoir, à la base, mais également d'une maman marocaine. Donc on est sur un métissage. de sa part. Également connu sur l'internet par le pseudo Mimi, n'est-ce pas? Mimi qui a 30 ans cette année.
Et oui!
Que je connais depuis qu'elle est toute bébé, environ. Non, depuis 10 ans.
Et oui.
Mimi est entrée en stage chez Mademoiselle et a petit à petit grimpé les échelons et on est devenu petit à petit aussi de plus en plus proches. Et d'autant plus proche maintenant que j'ai quitté Mademoiselle et que on n'a plus de rapport hiérarchique en fait. J'avais un peu peur que la relation se perde en fait, s'effiloche. Au contraire, elle s'est vraiment, je trouve, améliorée et approfondie. Mimi est, en fait, c'est dur de décrire Mimi en dehors de dire qu'en fait elle est brillante et que pour moi c'est sans doute l'un des cerveaux les plus brillants que j'ai rencontré. Et pourtant j'en ai rencontré des cerveaux brillants dans ma vie. Mimi est à l'eau et le feu, pour moi, c'est vraiment, elle m'équilibre en plein de choses, et on va sans doute en parler, mais en fait, je trouve ça assez génial de réussir à avoir trouvé quelqu'un qui a 15 ans de moins que moi, et en fait, d'avoir une relation avec elle qui soit aussi équilibrée, quoi. Parce que c'est pas forcément très simple, et tu vois, quand elle dit que j'ai été son mentor, je me rends compte que j'ai été à plein d'aspects son mentor, mais en fait, elle m'a appris en retour tellement de choses. On en parlera sans doute.
Trop bien, ça donne plein de sujets. On va commencer par la base, c'est votre rencontre. Est-ce que vous pouvez me la raconter? Comment ça s'est passé?
Yes, du coup, de mon point de vue, ma rencontre avec Fab a été professionnelle. Enfin, oui et non, parce que moi, j'ai rencontré Fab avant que Fab me rencontre, puisque j'ai lu Mademoiselle, et que à l'époque, donc j'ai commencé à lire Mademoiselle en 2010. Le magazine avait 5 ans. Moi, j'en avais, du coup, 18. Et 18-19, j'étais à la fac, j'étais un peu paumée, et c'est un magazine que j'ai assez vite beaucoup aimé pour son ton, et à l'époque, Fab y écrivait beaucoup plus, donc je savais qui était Fab de Mademoiselle, mais lui, il ne savait pas qui j'étais. Et ensuite, donc notre rencontre a été professionnelle, puisque j'ai postulé, j'étais étudiante en licence, et j'ai postulé à un stage chez Mademoiselle, et du coup, la consigne était d'envoyer une lettre de motivation non conventionnelle, donc j'ai fait une lettre de motivation que j'ai espérée spontanée et drôle, et comme j'étais persuadée de n'être ni l'un ni l'autre, je l'ai pas relue avant de l'envoyer parce que j'étais terrifiée de la trouver nulle et de passer ma nuit à la refaire pour qu'elle soit de pire en pire, comme quand tu rates une frange et que t'essayes d'équilibrer mais ça peut aggraver la situation, il faut savoir dire stop. Donc j'ai envoyé une lettre de motivation avec des fautes pour être correctrice, ce qui n'est pas quelque chose que je recommande aux gens, mais Fabrice étant, comme je l'ai dit, un esprit ouvert, il a rigolé à mes blagues, et du coup mon premier contact avec Fab, ça a été un message vocal où Fab me disait « Salut, c'est Fab de Mademoiselle, j'ai bien aimé ta lettre de motivation, vas-y, on s'appelle », qui était d'un naturel confondant pour un truc que moi j'imaginais très formel, de entretien d'embauche, machin. Et j'étais en pyjama, en coloc avec ma sœur à l'époque, et j'ai vraiment sauté dans tout l'appart en disant « Ah, c'est Fab de Mademoiselle !» C'était un message vocal, il n'allait pas m'entendre, mais j'ai quand même sauté crié. Et fait 3 tours de toupie avant de le rappeler, parce que Fab de Mademoiselle, c'était quelqu'un, et l'opportunité, c'était une belle opportunité. Donc ça, c'était ma rencontre de loin. Et après, en vrai, je sais que mon premier jour, t'étais pas là. Et la rédactrice en chef adjointe non plus. C'était bordélique à l'époque, Mademoiselle. Personne n'était trop au courant que j'arrivais. Donc bon, il y avait des gens de la boîte. Je me souviens pas de notre... Ah si, je me souviens de notre première journée ensemble au bureau. Parce que tu nous as payé le McDo. Donc on était toutes en train de manger à McDo. Toutes, à l'époque, on était 5 personnes. Donc c'était pas une entreprise comme maintenant d'une vingtaine de personnes. Et que c'est à l'occasion de ce déjeuner que j'ai appris ce qu'était l'épisiotomie, puisque tu as parlé de l'épisiotomie de feu de ton ex-épouse.
De feu.
De feu.
De ton
ex-épouse. Je voulais dire de feu ton mariage, mais du coup ça n'a pas
de
sens.
J'ai parlé de ça à table.
Oui, je sais pas pourquoi on parlait d'accouchement, et bon, tu vois, comme la vie ça arrive, mais c'était une bonne occasion d'apprendre ce qu'est l'épisiotomie, et une bonne introduction aussi au pause déjeuner chez Mademoiselle, où aucun sujet n'est tabou, finalement.
Premier jour où tu rencontres ton boss, finalement, logique, quoi.
Voilà, donc pour dire qu'on était déjà de base dans une relation assez détendue et assez peu formelle. Donc ça, c'était ma rencontre avec Fab.
Et moi, de mon côté, effectivement, je reçois ce mail, et en fait... C'est un skill que j'ai développé avec le temps, c'est que vraiment les mails qui me font rire et qui m'interpellent, pour moi c'était les meilleurs mails de... Et en fait t'as beau avoir la meilleure candidature possible, un CV en béton et tout, si tu m'envoies un mail un peu chiant, en fait je pars du principe que tu vas pas aussi réussir à alpaguer la lectrice quoi, tu vois, ou le lecteur de Mademoiselle, plutôt la lectrice. Et en fait effectivement Mimi avait fait des fautes. Et c'était un C'était un poste de correctrice, secrétaire de rédaction, parce que Mimi a commencé comme ça, comme stagiaire. C'était en plus un stage qui crée un peu le poste, si tu veux. Donc c'était un peu important aussi pour moi. À l'époque, la boîte effectivement était toute petite et on faisait des fautes de ouf. Et en fait, je trouvais ça cool de se dire, on va mettre quelqu'un qui va réussir à publier des papiers sans faute. Ça rendait le truc un peu plus sérieux, quoi. Et ouais, je me souviens que je t'ai appelé en fait en te disant, en fait, ton article, enfin tout ce que tu m'as écrit, c'est génial, mais t'as dû faire 3-4 fautes dedans. Que se passe-t-il, quoi, tu vois?
Non, tu me l'as pas dit dans le message parce que j'aurais pu te dire. Vraiment, je me suis
senti nul. Ah non, mais c'est dans le coup de fil qu'on a eu.
Oui, dans le coup de fil, oui, ouais. Tu me l'as dit. Pas dans le message auquel.
Et je sais plus comment je t'ai proposé de le corriger ou de le relire. Enfin, je sais plus exactement ce que je t'ai proposé de faire, mais en fait, pour moi, c'était vachement plus important que tu sois capable d'être drôle et d'être dans le ton. Que de faire un truc hyper au carré. Donc déjà, tu vois, on était déjà sur une forme de YOLO par rapport à faire des papiers sans faute, quoi, tu vois. Mais ceci dit, déjà de base, c'est upgrader forcément le truc en arrivant, quoi.
Oui, et en vrai, je suis pas mauvaise en grammaire et orthographe, oui. Quand je me relis.
Mimi est dicodore, faut le savoir.
Double championne régionale des dicodores en longtemps. Donc, voilà, j'avais des vraies compétences pour ce poste. J'étais pas juste marrante. Mais je ne me suis pas rendue.
Et alors, comment la relation elle s'est construite, puisque bah, toi, Fab, t'étais le boss de Mimi. Au début, tu dis, Mimi, vous avez parlé dès la premier déj d'épisiotomie. Enfin, ça a tout de suite été très détendu, mais à quel moment est-ce que ça s'est passé à un stade supplémentaire de « on va un peu plus loin que la relation juste employé-boss »
Moi, je dirais que ça s'est fait petit à petit, vraiment dans le temps, parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît maintenant. Et c'est vrai que pendant longtemps, pour moi, t'as juste été, bah, tu vois, une employée, une salariée qui faisait bien son travail, avec qui c'était trop cool de discuter, etc. Mais je sais pas trop comment ça s'est... Enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment très graduel. T'as un moment donné, t'as en tête, toi?
Non, j'ai pas de déclic. Je pense que... Donc, ma première année et demie chez Mademoiselle, j'étais à Lille. Et parce que Fab habitait à Lille avec sa famille et que le magazine était lillois. Et à ce moment-là, je pense que toute cette période, on avait une relation plutôt pro, mais très cool, où il y avait déjà... En fait, moi, je connaissais pas grand monde à Lille. Et du coup, bah, ça me dérangeait pas de rester tard au bureau et tout. Tu vois, moi, je faisais des trucs intéressants. Enfin, j'avais une chambre dans une coloc, j'avais pas internet. Honnêtement, je m'ennuyais pas mal. Donc, j'étais pas à première partie à 18h. Et souvent, bah, Fab et Taous Merakchi, qui était la rédactrice adjointe de l'époque, restaient aussi tard pour parler de plein de trucs. Et en fait... Quand bien même j'étais stagiaire dernière arrivée, j'étais tout à fait la bienvenue dans ces conversations et il n'y avait pas du tout de côté, genre en fait on veut rester entre nous, t'as rien à faire là. Donc bah ça
m'a
permis.
Jamais été l'ambiance. Hein.
Non, mais c'était trop cool. Enfin, c'est une super opportunité pour quelqu'un dans ma position de se sentir inclus dans ces discussions, d'avoir mon mot à dire et parfois c'était aussi des discussions un peu éditoriales de quoi on parle et tout. Donc je pense que c'était le début mine de rien de ce qui allait devenir ma longue formation. Donc et puis il y avait aussi de la déconne parce que Taous et Fab se connaissaient très bien. Donc il y avait aussi voilà un peu de vie perso mais rien de qui débordait du cadre de ce qu'on se raconte à la pause déj quoi. Et donc je pense que tout le temps à Lille on était juste patron employé. Ensuite moi j'étais à Lyon en télétravail et du coup bah on se voyait moins puisque je venais à Paris pour voir le bureau Mademoiselle a emménagé à Paris. Moi j'avais pas envie d'habiter à Paris donc je suis partie de Lille et je suis repartie à Lyon et j'ai continué à bosser pour moi dans télétravail. Et Fab est resté vivant à Lille, mais il allait à Paris du coup pour le travail. Et le deal, c'était que je faisais 10 jours à Lyon, puis je passais 2-3 jours à Paris, puis rebelote 10 jours à Lyon. Donc je venais... Et à ces occasions-là, en fait, ça me permettait de rattraper un peu tout le truc social et tout ce qu'on peut pas gérer à distance. Et du coup, souvent, on faisait des dîners et des trucs comme ça pour rattraper plein de choses. Et je pense que c'est à ces occasions-là qu'on a appris à se connaître un peu plus personnellement. Et aussi bah moi c'était une période de la vie où t'évolues beaucoup et très vite, enfin le début de la vingtaine. J'ai eu la chance d'évoluer chez Mademoiselle qui était un environnement hyper bienveillant et challengeant aussi parce que bah c'était plein de meufs qui réfléchissaient sur qu'est-ce que ça veut dire être une meuf et une super opportunité de remettre en question plein de choses dans sa vie. Donc j'étais aussi dans une période un peu chaotique et bah parler à quelqu'un qui était un peu plus âgé et qui en même temps bah était habitué à écouter la voix des jeunes femmes et savait ce qui se passait dans leur vie et savait de quoi je parlais quand on parlait d'internet et tout. Enfin, il y avait pas de oui, il y avait des différence générationnelle, genre l'amour du disco et la connaissance du basket des années 90. Mais rien qui faisait qu'il était là, c'est quoi tes histoires de Snapchat, tu vois, enfin...
d'Internet, donc... Non mais...
Oui, c'est vrai.
Tu vois, je pense qu'il y a
c'est
plein de...
C'est limite, je connaissais mieux Snapchat que toi.
Je pense qu'il y a vraiment plein de gens de 20 ans en 2012, leur patron de 35-36 ans, ouais. Ils maîtrisaient pas Internet comme toi tu maîtrises, tu vois, t'es... Et bah, du coup, il y avait... Une différence, certes, de maturité, mais dans les références, les, même les séries qu'on aimait bien et tout, on avait plein de choses à se dire, en fait. Et on aimait, je pense que aussi, on adore se marrer et aller manger des trucs.
Oui.
Et c'est deux bons points communs pour devenir potes. Parce que aller manger des trucs et rigoler, c'est, ça crée des liens assez.
Et en fait, à côté de ça, moi, j'avais, quand je te disais que vraiment Mimi m'a appris plein de choses, c'est que, par exemple, je crois que Mimi est la première personne à m'avoir dit, mais moi, je veux pas d'enfant. Quand t'avais 20 piges, et je crois que j'ai été sans doute un des énième connard qui t'a dit à ce moment-là, ouais, bah bon, t'as le temps, tu changes.
T'es pitchoune.
T'as le temps, tu changeras d'avis, quoi, tu vois. Et en fait, t'as été
je
trop
me
cool.
Pas, peut-être.
Parce que tu m'as, mais comme plein de meufs d'une manière générale, moi, j'ai vraiment fait ce parcours-là, tu vois, en tant que mec, d'avoir des jeunes femmes en face de moi qui étaient bienveillantes et quand je sortais des conneries que tous les mecs ont pu sortir, je crois que le truc qui me différencie un peu d'eux, c'est que, quand elles me disent ah bah non c'est pas vrai c'est pas notre vécu, moi je les écoute, tu vois, là où les mecs disent oh, j'ai juste en train de raconter de la merde, je suis ah bon mais pourquoi, enfin tu vois c'est un peu de curiosité. Et c'est vrai que quand je t'ai dit ça tu m'as dit non mais ça va t'es chiant avec à dire non moi vraiment je sais que je veux pas d'enfant en fait, je veux ah bon mais raconte-moi pourquoi, c'est quoi ta vie, etc. Et puis l'autre truc qui m'a marqué aussi c'est que tu m'as raconté au détour d'une pause déj ou un truc comme ça que t'étais avec un gars et qu'en fait t'étais en couple libre. J'étais c'est quoi le couple libre?
Ah, yes, oui,
j'avais 30 enfin, tu vois, j'avais 30 et quelques piges. Moi j'ai rencontré ma femme à l'époque quand j'avais 17 ans. Enfin tu vois pour moi ça n'existait pas, il y avait pas, enfin tu vois c'était avant les réseaux sociaux quoi, tu vois, c'était avant Insta, c'était avant le féminisme, c'était avant l'ouverture. Enfin c'était il y a pas très longtemps en vrai, c'était il y a peut-être 10 piges. Mais c'était vraiment, j'ai l'impression, une autre époque en termes d'ouverture et d'ouverture sur le monde. Et en fait, c'était trop cool aussi. Je dis, mais comment c'est en fait, tu vois un gars, mais tu vois aussi d'autres gars à côté. Tu dis, ouais.
Et c'est OK.
Et je dis, wow, OK. Mais comment ça se passe? Et d'ailleurs, en fait, on a eu une discussion géniale. Je me suis dit, cette meuf, elle est quand même marrante.
C'est trop un bon exemple parce que, en fait, pourquoi ça fit? Je pense que c'est cette ouverture d'esprit et le fait que, voilà, Fab a jamais eu cette position de moi je sais parce que je suis un mec ou parce que je suis plus vieux et qu'il est toujours curieux. Donc voilà, le couple libre, au lieu de faire ce que un milliard de personnes ont fait, à savoir dire c'est une connerie, vous êtes bizarre, ou même un truc un peu genre ok les jeunes, oh là là on sait plus quoi inventer, tu vois, il était juste curieux de comment ça marche. Et je trouve ça trop bien d'apprendre des trucs, alors que bah du coup la même année j'ai fait un article sur Mademoiselle sur le couple libre et on a tout un lectorat qui était pourtant plus jeune que Fab à l'époque, hein, pour la plupart, qui était vent debout contre l'idée, en mode c'est des conneries, on sait plus quoi inventer. J'étais la meuf qui est de petite vertu parce qu'elle veut se faire tringler à droite à gauche, soit j'étais la vicose qui laisse son mec la faire cocu, voire les deux en même temps. Donc un grand mec de 15 ans plus que moi avait plus d'ouverture d'esprit sur mon vécu de meuf de 20 ans que des meufs de 20 ans qui, pour certaines, me refusaient le droit à le vivre, quoi.
Ouais, donc
c'est vraiment pas une question d'âge, c'est une question de... open mind.
Ouais, t'as trouvé quelqu'un qui écoutait et qui se questionnait aussi sur ce que tu racontais et pas juste qui
me prenait au sérieux, je pense, et qui s'intéressait et qui est, que je pense que t'as toujours été dans la vibe de bah c'est pas parce que c'est pas mon truc que c'est pas un bon truc, c'est juste chacun aussi a ses préférences. Et qui me challengeait aussi beaucoup, hein. C'était, moi j'ai beaucoup appris auprès de Fab, professionnellement évidemment, mais aussi humainement sur ma façon d'aborder le monde. Je me souviens que, alors c'est peut-être alors c'est pas un moment où on est devenu amis parce qu'on était déjà bien amis pour que tu me dises ça, mais à un moment il m'a dit un truc que sur le coup j'étais là ok waouh. Et en fait plus les années passent et plus je me dis t'avais 100% raison. C'est que en gros chez Mademoiselle j'ai côtoyé pas mal de gens très cool, puisqu'il y avait plein de gens très cool qui gravitaient autour de Mademoiselle, soit des anciennes de l'équipe, soit des gens avec qui on faisait souvent des interviews, des machins, un peu des cool kids, des célébrités et tout. Et avec qui j'avais un bon rapport, je sais pas, ces gens-là ils passaient au bureau, on prenait un café, on allait fumer des clopes, on déconnait bien, mais c'était pas non plus devenu des potes pour autant. Et moi j'étais arrivée à Paris, j'avais du mal à me faire des potes, et à un moment j'ai dit à Fab, je comprends pas pourquoi tous ces gens-là, ils ont l'air de me trouver super, mais en vrai ils veulent pas être potes avec moi. Et tu m'as dit, ouais mais honnêtement, qu'est-ce que tu leur apporterais? Et j'étais là, waouh, ok. Mais en fait, après t'as évidemment développé, et tu m'as dit, en fait le truc c'est que ça c'est des gens qui ont 10 ans de plus que toi, et qui ont plein de choses dans leur vie, et qui probablement eux ils t'apportent beaucoup, mais toi je suis pas sûre que tu leur apportes beaucoup. Donc il faut que tu trouves des gens avec qui il y a un vrai truc de vase communicant et où c'est pas des gens qui vont être en posture de hauteur par rapport à toi, et pas des gens que t'admires, mais des gens que t'aimes et avec qui tu vas grandir. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Je me suis créé une bande de potes de mon âge, tous fucked up à différents niveaux, et on a galéré ensemble dans l'âge adulte, mais c'était beaucoup mieux de le faire avec des gens qui galéraient en même temps que avec des gens 10 ans plus que moi qui franchement avaient d'autres préoccupations dans leur vie de type est-ce que je fais des gamins maintenant ou pas, tu vois, même des adultes, quoi. Et bah sur le coup c'était pas forcément facile à entendre qu'est-ce que tu leur apportes, mais maintenant plus ça va, maintenant j'ai l'âge de ces gens et je me dis oui, effectivement, une petite gamine de 22 ans qui voudrait grave être ma meilleure pote, même si elle est très cool, et j'en côtoie des meufs de 22 ans très cool, bah a priori j'ai pas forcément la place dans ma vie pour. Par contre, on peut avoir un autre type de relation qui est chouette, et je vais plutôt l'encourager à se faire des amis de son âge et à traverser toutes ces parties-là de la jeunesse avec des gens de son âge, en fait. Donc, y a un franc-parler et une confiance qui fait que on peut se faire grandir aussi en se disant les choses de façon cash, et en même temps, j'ai pas souvenir que tu... Je pense que ça a dû m'arriver, mais tu vois, j'ai pas souvenir que tu m'aies dit un truc qui m'a blessé. Et généralement, je me souviens quand les gens que j'aime ont dit un truc qui m'a blessé, parce que c'est le moment où tu fais genre, oh, c'est pas la fin du monde, mais tu t'en souviens, quoi. Et je suis là, je sais pas si tu m'as déjà blessé un jour en disant un truc, quoi.
Mais je crois que t'es difficilement blessable aussi. C'est-à-dire que t'es pas vraiment dans cette posture-là. Je sais que j'ai pu, par mon franc-parler, parce que c'est vraiment un truc que j'aime faire dans la vie, c'est-à-dire, ok, en fait, les relations tièdes, ça me gonfle un peu, tu vois. Et moi, je préfère me dire, bah, en fait, tu m'aimes ou tu me détestes, mais en attendant, au moins, tu sais ce que je pense, quoi. C'est plus simple. À la fin, on meurt, tu vois. Et tant qu'à faire, autant passer le plus de temps possible avec des gens avec qui t'es au clair, quoi. Et je sais que j'ai pu avoir des amis et des gens qui ont souvent mal vécu, tu vois, ce franc-parler, alors qu'en fait, moi, je suis toujours très bienveillant et qu'il y a des gens qui peuvent le prendre mal. Et je comprends, en fait, tu vois, mais c'est... Ah, j'ai appris avec le temps que j'étais comme ça et qu'en fait ça servait à rien de se tiédir juste pour faire plaisir à des gens, tu vois.
Moi je t'aime pas malgré ton franc-parler, je t'aime en partie pour ton franc-parler.
Que j'ai toujours aimé chez toi, moi, c'est que tu me... En fait, j'ai vraiment créé cette culture de la liberté de la parole chez Mademoiselle, et en tout cas, je croyais l'avoir créée, c'est-à-dire que j'ai toujours eu cette sensation que n'importe qui pouvait me dire n'importe quoi. Et en fait, peut-être je serais pas d'accord avec, mais je serais capable de venir débattre. Et en gros, les gens que j'ai fait rentrer dans la boîte, je partais du principe que ils savaient ça, que c'était dans le mode d'emploi, tu vois, de la boîte, limite dans le mode d'emploi culturel. Et je me suis rendu compte avec le temps que c'était pas forcément toujours aussi simple que ça, parce que on t'apprend tellement depuis tout petit à respecter l'autorité que même quand t'as un boss qui vient te dire, bon, en fait, tu peux venir me dire n'importe quoi, et qui, dans les faits, en plus, enfin, tu vois très bien qu'il y a d'autres gens qui viennent un peu challenger ses opinions, etc., bah, ça se retourne jamais contre eux. T'as toujours des parents, des machins, qui viennent te dire, j'ai des parents de mes salariés, en fait, qui venaient me dire, bah, en fait, ça me fait plaisir parce que mon père, il m'avait dit, dis pas ça à ton boss. J'étais, ah, bon, ok, je comprends, en fait, mais d'un côté, t'es une grande personne maintenant, donc t'as le droit de dire ce que tu veux. Et en fait, ce que j'ai toujours aimé avec toi, c'est que t'as toujours été, t'as toujours pris cette liberté-là, et en fait, tu donnais un peu le là aussi, tu vois, c'est-à-dire que,
oui, parce que
en venant montrer l'exemple.
J'attendais pas d'être en privé pour rentrer dans l'art de Fab quand j'étais pas d'accord, et parfois, je pense qu'on s'est jamais, en fait, on s'est jamais engueulé, dans le sens où pour moi, engueuler, il y a un moment où ça dépasse le sujet, où vraiment t'es en train de t'embrouiller pour des trucs que tu dis pas. Mais on a débattu fort sur des trucs où Fab, il disait, on va faire ça, c'est une bonne idée. J'étais là, je pense fondamentalement que c'est une connerie. Donc, au bout d'un moment, tu m'as donné des responsabilités de défendre mon beefsteak et devant la rédac aussi, parce que moi, j'apprends beaucoup en observant. Et je pense que j'ai appris, du coup, en observant chez Matt, que effectivement, les gens, à l'époque, enfin, il y avait, voilà, Taous Merakchi, elle a une grande gueule aussi et tout. Et en fait, j'ai challengé Fab et ça se passait bien, donc je l'ai fait. Et assez naturellement, je pensais aussi que le faire et montrer que ça se retournait pas contre moi suffirait à ce que tout le monde sache que c'était possible.
Et est-ce que du point de vue des autres, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler avec les autres filles de chez Mad, mais est-ce que c'était pas aussi vu du fait que, vu que vous étiez assez proches, t'osais, toi, Mimi, en dire les choses clairement à Fab, que quelqu'un qui avait pas la même relation n'aurait pas forcément osé, aurait eu plus de mal, parce que c'était plus une relation boss salarié.
Bah si, carrément, mais ça je l'ai compris beaucoup plus tard qu'il y avait un côté, ouais mais toi tu peux lui dire parce que t'es sa pote. J'étais là, non, je suis devenue sa pote parce que je lui dis. En fait, c'est de l'inverse, mais les gens étaient pas là, enfin forcément ils étaient pas là au début. Et du coup j'ai compris, parce qu'on me l'a dit très tard, qu'il y avait un côté, bah oui mais en fait... Enfin, c'est sûr, toi, Mimi, tu peux lui parler comme ça, vous êtes potes. Et j'étais là, ah ouais, non, en fait, je peux lui parler comme ça depuis le premier jour où on bosse ensemble, quand on n'était pas potes et que j'avais 20 piges et que j'avais zéro expérience pro et zéro légitimité, à part, un boss qui m'a dit, je te prends pour ton cerveau, donc autant que je l'utilise tant que je suis là, quoi. Effectivement, oui, ça a pu être perçu comme j'ai des passe-droits parce que, voilà, je peux le... Ce qui se comprend, enfin, oui, il y a plein de situations où tu peux te permettre de dire quelque chose à quelqu'un de proche, que tu dirais pas à quelqu'un dont t'es pas proche. Mais sur les retours, enfin sur le cadre pro, en vrai, tout le monde pouvait dire la même chose.
Moi, j'ai appris aussi à dire beaucoup plus clairement mon mode d'emploi. Tu vois, je te disais, je donnais le mode d'emploi, mais je crois qu'il y avait aussi beaucoup d'implicites là-dedans. Et avec le temps et l'expérience, j'ai appris à dire clairement aux gens, en fait, tu peux me dire les choses, et je te promets que tu peux vérifier auprès du reste de l'équipe. Tu peux me dire les trucs et je préfère que tu me dises les trucs plutôt que tu les gardes pour toi et que tu partes en disant oh, j'ai vécu une mauvaise expérience chez Mademoiselle. Et surtout, ça tire tout le monde vers le bas quand tu viens pas donner ton avis, parce que pour moi, à la base, Mademoiselle c'est un média, et en fait un média dedans, il y a des articles, des opinions, et l'important c'est que on peut très bien ne pas tous être d'accord, et venez, en fait on vient faire en sorte de créer aussi le débat, parce que si on a ce débat là entre nous, ça veut dire qu'il y a potentiellement ce débat dans la société entre, je sais pas, des bandes de potes ou des gens qui se connaissent, et si on n'arrive pas à refléter ça, on perd, en fait, à chaque fois on rate notre mission, quoi. Et effectivement, ça faisait partie de l'ADN de la boîte d'avoir des débats. Effectivement, on a pu s'engueuler, en fait, mais en fait à chaque fois c'était des engueulades sur plutôt pour faire en sorte de tirer le projet vers le haut, quoi, tu vois.
Et ça a jamais terni notre relation personnelle. Il y avait, en fait, on pouvait passer une heure à débattre d'un truc et finir par se dire on s'arrête là parce qu'on tourne en rond. Et en fait, le soir même, aller manger un morceau et soit débriefer ça en mode, en fait, j'ai l'impression que tu comprends pas d'où je viens et que tu rejettes mon idée parce que t'as décidé que j'avais tort et pas parce que tu l'entends, parce qu'ils ont des vraies conversations qu'on a eues. Ou alors parler d'autre chose et dire, bon, ça c'est le taf, vas-y, on le laisse pour demain, et juste, comment ça va, j'ai vu ta film hier, c'était cool. Donc il y avait ce truc de, en fait, on savait que c'est pour ça que pour moi c'est pas des engueulades, on savait que c'était pas personnel et que c'était juste, je te respecte assez pour te dire ce que je pense. Et tu me respectes assez pour me dire ce que tu penses, et en même temps, à la fin, on est aussi conscient qu'il faudra bien trancher, et que si on est dans le cadre pro, à la fin, c'est toi le boss, et t'es tout à fait légitime à me dire, écoute, on va faire ce que je dis, et je dis, au bout d'un moment, je suis pas con, je dirais, ok, on va le faire.
Ça m'est arrivé,
et si jamais, c'était quand même, il se trouve que j'avais raison, je dirais, il se trouve que j'avais raison, parce que je suis un peu un sale con parfois, et si jamais il se trouve qu'il avait raison, je dirais, écoute, t'avais raison.
Comment est-ce que vous avez géré pour garder ce côté pro, et on se dit les choses dans le cadre pro et tout, sans que ça gêne les autres relations professionnelles qu'il y avait à la rédac?
Moi j'ai plutôt tendance à croire que ça les améliorait, en fait. Il y avait un côté, tu peux avoir cette relation là avec le boss de Mademoiselle, et c'est pas parce que c'est toi, ça prouve en fait que tu peux lui dire tout et tu vas voir sa réaction. Parfois je me rebiffais, parfois j'étais capable de dire putain, en fait c'est vrai, j'avais pas vu comme ça, et c'est ok, vas-y, let's go. Et de voir aussi que t'avais le boss qui pouvait te faire confiance en tant que meuf, même quand t'étais plus jeune, quoi, tu vois, pas forcément
tout début, quoi. Si ça avait tenu qu'à Fab, je serais devenue rédac chef à 24 ans, parce que c'était mon projet qui m'a proposé le job, et j'ai dit non parce que je me sentais pas prête. Donc pour le coup, en termes de empowerer une jeune meuf dans sa carrière, on était bien, quoi. Donc effectivement, il y a la valeur d'exemple qui fonctionne. Et pour moi, je dirais que c'était un avantage d'aussi bien connaître Fab, parce que du coup, je pouvais aider les meufs à le comprendre, parce que je comprends comment il fonctionne, ce qui me permettait de faire le pont, en tout cas pour les meufs de mon équipe, donc de la rédaction, et puis un peu de façon informelle pour le reste des membres de l'équipe, qui, en fait, au bout d'un moment, j'étais la plus ancienne de Mademoiselle, donc il y avait un peu un truc de si t'as une question, va voir Mimi, et j'étais pas encore la chef, ou alors pas celle de tout le monde, donc il y avait pas ce côté, tu vas demander à la chef, quoi. Donc les gens qui avaient un peu de mal à comprendre parfois les réactions de Fab, ou qui voulaient lui parler d'un truc et qui voulaient savoir c'est quoi le meilleur moment, moi j'avais cette connaissance de comment il fonctionne, et à l'inverse, je pouvais aider Fab à comprendre comment fonctionnent les membres de l'équipe, parce que plus moi je gagnais en hiérarchie, plus lui il était éloigné des membres de l'équipe, puisqu'il y avait des niveaux hiérarchiques, et puis ça tenait aussi à il avait pas le temps de tout faire, donc il avait des choses à faire. Et du coup, il s'est retrouvé avec une rédaction qu'il connaît pas vraiment, en tout cas vraiment pas autant qu'avant,
Avec laquelle il peut y avoir évidemment des tensions, des incompréhensions, et du coup, bah, moi, ça m'aidait, le fait de bien te connaître, à faire le rôle de passerelle pour améliorer le mieux possible et fluidifier ses relations pro.
Et puis, cette question de la parole et d'avoir vraiment envie que chacune puisse s'exprimer comme elle l'entend avec tout le monde, mais notamment avec toi, Fab, ça vous est un peu revenu aussi comme un boomerang, j'ai envie de dire, avec Mademoiselle.
J'interviens juste avant de passer au chapitre Mademoiselle pour remettre un petit peu de contexte. En septembre 2016, bien avant MeToo, un compte Twitter anonyme publie des témoignages d'anciennes employées de Mademoiselle accusant Fab d'abus de pouvoir, d'harcèlement moral et sexuel. Se crée alors le hashtag Mademoiselle et cette affaire marque un tournant dans la vie de l'entreprise, de ses employés mais aussi de Fab. À savoir qu'il n'y a jamais eu de plainte déposée à l'encontre de Fab et que les témoignages sont toujours restés anonymes. Maintenant, je te laisse avec Fab et Mimi qui racontent comment ils ont vécu tout ça en 2016.
Déjà, on ne sait toujours pas de qui viennent ces messages. C'est-à-dire qu'à la base, ces messages ils viennent d'un compte anonyme sur Twitter qui a posté des messages anonymes.
De façon organisée et timée, dans le sens où il y avait un vrai planning. Je me souviens que c'était un mercredi soir. Il y avait plusieurs comptes qui se sont mis à Twitter en même temps pour relayer ce compte. Donc, c'était pas un truc de témoignage spontané venant de personnes qui parlaient en leur nom sur leur compte. Donc, effectivement, on sait pas exactement qui sont ces gens. Et c'est pas le but de le savoir.
Et pour j'aurais bien aimé le savoir, mais la justice prend le temps de faire son travail.
Après, on sait d'où ça vient, etc. Quoi. C'était assez
limpide. On sait d'où ça vient.
Pour moi, Mademoiselle, ça a été le moment où j'ai pris conscience que il y avait autant de gens qui arrivaient qui parlaient pas à Fab. Après, pourquoi ils parlaient pas à Fab, ça je ne sais pas. Et c'est des gens avec qui j'ai bossé, c'est des gens avec qui j'étais dans les mêmes bureaux et dont j'étais même pas tant la chef à l'époque. Enfin, pour la plupart, j'étais pas leur chef. Et du coup, j'avais pas ce truc hiérarchique qui aurait pu les empêcher de me parler, comme ça peut être le cas quand on devient chef. Et du coup, moi j'avais déjà cette relation très transparente avec Fab, donc je comprenais pas, j'étais là, en fait, je comprends pas ces témoignages qui peuvent refléter une réalité tellement différente de la mienne. En même temps, ça m'attriste parce que c'est visiblement des gens qui ont pas passé un bon moment, et pour moi le but c'est que tout le monde passe un bon moment, ou arrive à dire qu'ils passent pas un bon moment. Il y avait un côté un peu, en fait c'est du gâchis parce que je suis à peu près sûre que si ces gens avaient parlé, ça serait bien passé. Et visiblement, quoi qu'on en dise, c'est des personnes qui ont souffert, qui ont l'air d'avoir eu de la peine et d'avoir souffert. Après, c'était un moment qui était aussi très violent à vivre, de mon côté, et du côté de Fab, évidemment, beaucoup plus. Et c'était un moment qui a été important pour notre amitié à plein de niveaux. Mais moi, quand c'est arrivé, j'étais chez un ami qui a été checker Twitter sur son ordi et qui m'a dit « Viens voir, y a un truc, viens voir vite fait. » Et j'ai regardé, j'ai fait... Ok, c'était notre première vraie shitstorm de cette ampleur-là, qui en plus venait de notre camp idéologique, c'est-à-dire plutôt du camp du féminisme. On avait eu des gros raids du JV, des forums 18-25 de jeuxvideo.com, mais bon, on les connaît, c'est des gros cons, ils arrivent, ils font chier, c'est plus du bruit qu'autre chose, c'est plus une nuisance de « Ah, il va falloir dépoussiérer tout ça demain ». Là, c'était un vrai truc de « Qu'est-ce qui se passe ?» Et à l'époque, c'était bien avant MeToo. La culture du call-out et d'utiliser les réseaux sociaux et notamment Twitter comme outil d'ampleur pour dénoncer des choses qui sont de l'ordre d'agissements d'entreprises privées. En plus, Mademoiselle, bon, c'est pas Danone, quoi, ou Nestlé en termes d'ampleur, hein, c'est une toute petite structure. C'était quelque chose qui était beaucoup moins courant que maintenant, où il y a balance ta start-up, balance tout ce que tu veux, où il y a eu MeToo et balance ton port. Donc il n'y avait pas vraiment d'habitude et de recul sociétal sur que faire quand ça t'arrive. Et quelle ampleur ça va prendre. Enfin, moi, j'étais vraiment devant tout ça en mode « Ok, il se passe un truc, mais je sais pas ce qui se passe. » Et j'ai appelé Fab tout de suite. Et Fab était au courant depuis quelques minutes aussi. Il était dans la rue, il allait très mal. Et moi, je savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit « Je vais rentrer chez moi parce que mon ordi est chez moi et j'ai besoin de mon ordi absolument. » Et je suis rentrée chez moi et en fait j'ai deux potes qui ont compris que ça, c'était un truc sérieux et qui m'ont dit « On va venir te tenir compagnie, ça va pas être une très bonne soirée. » Et avec le recul, mais ça, je te l'ai dit, donc je suis retournée au travail le lendemain, et il s'est passé plein de choses, c'était intéressant. Mais avec le recul, je regrette j'aurais dû retrouver Fab, j'étais à Paris ce soir-là, et j'aurais dû retrouver Fab parce que ça allait pas, et que moi non plus ça allait pas. Et en fait, c'est trop cool d'avoir vu mes potes, et je suis contente de pas avoir été toute seule, mais j'aurais dû pas être toute seule avec toi, parce que c'était plus dur pour toi que pour moi, et
C'était vraiment très bien.
Parce que toi, du coup, tu t'es retrouvée chez toi tout seul.
J'étais avec Clémence et en fait
Clémence Bodoc, Clémence Bodoc, de Mademoiselle. Contexte.
Clémence Bodoc et bon voilà, c'est pas une période très marrante pour moi. Quand je découvre ces tweets, en fait le monde s'effondre sous mes pieds, quoi. Vraiment, mon premier truc en fait, c'est de me dire je vais aller me foutre en l'air. Donc, parce que en fait, à l'époque, ça fait 10 ans que je suis en train de porter ce projet, que j'ai passé une énergie et un temps fou à vouloir faire en sorte de rendre le monde un peu moins nul, quoi. Et en fait, j'ai un peu la sensation que cette récompense-là, en fait, elle est totalement injuste. Je dis pas que j'ai été un patron parfait, hein, tu vois, j'ai démarré Mademoiselle, j'avais 28 ans, j'ai fait plein d'erreurs de management, j'ai fait comme je te disais tout à l'heure, j'ai un côté franc-parler où je sais que j'ai pu blesser des gens, tu vois, mais ça a jamais été malveillant. Et je défie quiconque de venir me dire aujourd'hui que j'ai pu être malveillant avec, parce que j'ai pu dire des trucs qui ont pu blesser des gens, tu vois, mais encore une fois, enfin, ça n'a jamais été malveillant de ma part. Et je trouvais que cette façon de me foutre comme ça sur la place publique, de façon anonyme, c'est-à-dire que tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas qui a écrit ça, avec une réalité qui n'a strictement rien à voir avec ce que moi j'ai pu vivre, si tu veux.
Oui, il faut quand même dire pour les gens qui ont peut-être pas tout l'historique que très très vite, littéralement le même soir, en une heure, c'est passé de quelques témoignages qui étaient officiellement de personnes ayant travaillé chez Mademoiselle et racontant leur vécu à un milliard de rumeurs différentes sur la vie de Fab, sur sa vie privée, sur plein de choses qui étaient des gens qui disent ah oui, moi j'ai entendu dire que le mec il drague ses jeunes filles au père, tu vois.
Ouais, et déjà des gens qui attendaient que ça pour te
c'est ça, c'était quoi. Vraiment orchestré en fait, enfin il y avait des gens qui se sont coordonnés pour tweeter toute la soirée en inventant en racontant des conneries sur Fab, donc c'était tout de suite pas que un truc de il y a probablement un management perfectible, quoi. C'était ciblé et pas que sur Mad, principalement sur Fab et sa personne. Et du coup, c'était vraiment très personnel très vite et très diffamatoire très vite.
Voilà. Déjà, l'équipe a été totalement derrière moi, si tu veux, et Mimi en tête, quoi, tu vois. Et en fait, c'est dans ces épreuves-là qu'on soude aussi l'amitié, quoi, tu vois. Et surtout, Mimi, ça faisait à l'époque 5 ans, que tu... non, 4. Peut-être un peu moins, 4 ans que tu bossais là. Donc t'étais là, t'étais limite peut-être la personne qui bossait là depuis plus longtemps à l'époque. Et en fait le fait que tu viennes me dire bah moi en fait c'est pas mon, enfin parce qu'en fait tu finis par douter de est-ce que c'est vraiment la personne que je suis, si tu vois ce que t'es en train de dire, ouais. J'ai vraiment fait ça parce que t'as vraiment l'impression que non, et en fait peut-être que si, mais tu finis par toi-même douter.
Ça fait douter de ouf, hein.
C'est complètement marteau, vraiment, tu sais plus vraiment quitter, quoi, tu vois, c'est vraiment très étrange, ça te gaslight totalement, quoi. Tu vois, tu dis ah.
Oui, et en plus t'es le rédac chef d'un magazine, enfin non, Clémence venait de devenir la rédac chef, mais t'es le fondateur d'un magazine féministe qui a appris que c'est important de croire les victimes, que c'est important de croire les paroles, que c'est important de pas remettre en question la parole des victimes, et tu te retrouves face à des gens qui racontent des trucs sur toi qui sont pas vrais, et des trucs sur ma réalité aussi, puisque c'était des trucs de vie de l'entreprise, et sur la réalité de toutes les meufs qui bossaient chez Mad à ce moment-là, qui sont pas vrais, donc t'es dans une grosse dissonance cognitive de je suis pas prêt à cette situation, je peux pas aller, enfin, c'est pas vrai, mais si je vais dire qu'elle ment, ça marche pas, enfin, c'est très, t'es un peu un lapin dans les phares, quoi, de, oula, on va pas tweeter tout de suite, hein, on va attendre que ça se calme.
Et vous étiez déjà amis avant ça, ou ça a vraiment scellé quelque chose de bah voilà, toi Mimi, le premier truc que tu fais c'est que t'appelles Fab. Est-ce que Fab, je sais pas, t'as dit à Mimi ce dont t'avais besoin à ce moment-là tant qu'ami
J'étais incapable en fait, j'étais juste en train de... j'avais envie de crever, ouais. Vraiment. C'est-à-dire que... Et puis, c'était avant ma thérapie.
C'était le Fabrice d'avant, on parle du monde d'avant, mais c'était le Fabrice d'avant.
J'étais pas le même mec. C'est-à-dire que je me suis rendu compte là, ces 4-5 dernières années, tu vois, depuis que je suis rentré. Donc, suite à cette histoire, j'ai entamé une thérapie parce que vraiment, j'étais mort, quoi, tu vois, en termes de santé mentale, j'étais au plus bas. Et en fait, cette thérapie m'a surtout permis de prendre conscience de plein de choses et des mécanismes que j'ai pu mettre en place. Et tu vois, là encore, je suis encore en train de détricoter, quoi, tu vois. Je me rends compte, en fait, que pour plein de raisons, j'ai monté Mademoiselle pour plein de super raisons, mais aussi avant, égotiquement pour moi, pour sauver quelque part la gente féminine, quoi. Tu vois, je crois qu'il faut, je l'acte ici, c'est la première fois que je le dis. Mais tu vois, j'avais un peu ce truc de être un mec bien parce que c'est vraiment un truc qui m'importait, qui m'importe encore aujourd'hui, en fait, dont j'essaie de me détacher, être un mec bien, avoir, se coller cette étiquette de je suis un mec bien, tu vois, c'est aussi, bah ouais, c'est aussi sauver la gente féminine. Et en fait, le fait de m'être mis dans cette posture-là m'a aussi amené à créer les conditions qui font que tôt ou tard, bah, le sauveur sur son cheval blanc là, on va juste lui envoyer 3 flèches dans le crâne et il va fermer sa grande mouille. Ça faisait partie du truc, quoi. Donc et je me rends compte 5 ans plus tard que j'étais pas la même personne globalement, donc j'étais incapable d'accéder à mes émotions. J'ai juste shut down en fait ce soir-là, tu vois, parce que pour éviter de me foutre par la fenêtre ou d'aller sous un métro, mon corps il a fait tu vas t'allonger, tu vas dormir. J'ai dormi tellement c'était trop pour moi, je savais pas comment le gérer, quoi. Effectivement, t'aurais pu venir, mais en fait c'était juste ouais, c'est pas grave, je n'étais pas disponible.
Tu as pu le couver.
Voilà. Je pense qu'on était déjà amis, mais que c'était pas conscient. Je pense que si j'avais conscientisé qu'on était amis, je serais venue. Parce que on laisse pas un ami dans la galère, et que vraiment j'étais pas loin, j'étais à 2 arrêts de métro. Et que j'avais ce truc débile de ah non, mais faut que j'ai mon ordi pour demain, mais en fait, mais c'est aussi une preuve que j'avais pas l'idée de l'ampleur du truc. Je pensais que demain j'allais aller au boulot et que ce serait une journée normale, peut-être, tu vois, après une soirée un peu chiante, et que sûrement on allait débriefer dans la matinée, mais je pensais pas que ce serait l'actualité de ma vie, et qu'on en parlerait encore 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, presque 6 ans plus tard, waouh. Du coup, je dirais que j'avais pas conscientisé qu'on était amis, mais je sais que le lendemain, donc on est venu au bureau, on s'est toutes réunies et on a toutes parlé de ce qui se passait, et donc on a toutes spontanément été d'accord pour dire que c'est pas notre vécu et que on était plutôt dans une team de rétablir un peu la vérité sur en tout cas ce que nous on vivait, et donc pas dans une démarche de on va défendre Fab, mais plutôt genre on va aussi, enfin en premier se défendre nous parce qu'on était un peu victimisés et vu comme des petites choses fragiles à la solde du grand mal patriarcal, et on était là, le même grand mal patriarcal qu'on chambre toute la journée, franchement ça va. Donc je pense que la première impulsion, c'était de défendre notre réputation et notre vécu, et de pas être considérés comme des meufs un peu manipulées sans le savoir. Ça c'était la prio. Et ensuite, voir comment allaient les femmes, quoi. Et je sais que c'est la première fois qu'on s'est fait un câlin pour de vrai. Tu m'as fait un câlin pour de vrai. Et vraiment juste, il m'a attrapé, il m'a serré, il m'a dit heureusement que t'es là. Et c'était un vrai câlin, quoi, un vrai truc de je t'attrape parce que sinon je coule. Et je pense que c'était un bon moment pour comprendre que en fait on est amis et que c'est pas juste c'est pas juste du taf, et que on était à la fois en train de traverser ce truc professionnel qui était compliqué, mais aussi de le traverser d'un point de vue personnel, et qu'on allait aussi partager cette expérience personnellement, que j'allais pas la réserver à mes amis et toi à tes proches. On allait aussi partager qu'est-ce que ça nous faisait au-delà du point de vue pro, quoi. Je t'avais dit d'aller pleurer.
C'est terrible en fait d'avoir ce genre d'épreuve pour que ça renforce la relation, mais au final, aujourd'hui, vous arrivez aussi à.
Enfin, on est là.
Ouais, c'est ça, être vulnérable et. C'est terrible.
Combien de temps ça t'aurait pris de faire une thérapie? Et à moi donc, parce que je le chambre, mais moi j'ai fait une thérapie aussi parce que Fab a fait une thérapie et que.
Pas parce que j'ai fait une thérapie.
Parce que, parce que
t'as vu que chez moi ça m'avait ouvert des trucs.
Oui, parce que t'as fait une thérapie.
Oui, enfin, okay.
C'est l'exemple que moi j'ai, à l'époque, les gens ils faisaient pas trop des thérapies autour de moi, c'était vraiment pas très courant. Ou alors ils en parlaient pas. Et surtout pas les grands gaillards cadras. Donc, et oui, je voulais. Alors rien à voir, je saute du coq à l'âne, peut-être je.
Vas-y, t'inquiète.
J'ai oublié de dire tout à l'heure, je pense que ça nous a pas mal rapproché le sujet des masculinités. Ah oui. Le fait que j'ai assez vite
sur MAD,
en fait c'était 2014 que j'ai commencé à bosser sur le sujet sur Mademoiselle, en étant amenée donc à réfléchir sur les masculinités et comment les hommes construisent leur genre et comment le patriarcat fait spécifiquement du mal aux hommes comme il fait du mal aux femmes sur d'autres sujets spécifiques. Mais du coup j'ai commencé assez tôt, je dirais en 2014 ou 2015, à bosser dessus sur Mademoiselle, et c'est forcément un sujet sur lequel j'ai changé beaucoup avec Fab, ne serait-ce que parce que c'était l'une des rares personnes concernées de l'équipe. Donc c'était la meilleure personne sur qui faire rebondir, mais j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai vu ça, comment tu réagis, qu'est-ce que t'en penses?
que ça t'a assez vite challengé, et en fait ce qui te challenge ça t'intéresse, donc et que je pense que c'était hyper intéressant pour toi qu'on te présente aussi le prisme du féminisme sur, bah en fait t'es au courant de, enfin t'es au courant de tout ce que ça peut apporter aux femmes, et t'apprends tous les jours à quel point ça peut apporter aux femmes, mais il y avait pas encore beaucoup en littérature francophone, il y avait pas grand chose en tout cas d'accessible sur la question, c'était que des trucs universitaires, c'était pas encore très mainstream, et du coup ça nous a pas mal rapprochés jusqu'à créer The Boys Club, le podcast masculinité de Mademoiselle, ensemble à la base.
The Boys Club, c'est un podcast que Mimi a lancé en compagnie de Fab, disponible sur Mademoiselle, un podcast pour faire parler les hommes sur la masculinité et le fait d'être un homme aujourd'hui, un podcast qui est désormais entre les mains de Fab, et il s'appelle aujourd'hui Histoire de mec, tu le trouves en description de cet épisode.
Parce que vous l'avez lancé en quelle année, The Boys Club ?
Deux mois. Novembre 2017.
Et c'était, ça a été une volonté tout de suite de le faire à deux ou...
Non.
Non, c'était moi qui voulais le faire.
Merci Mimi.
Je traînais un peu des pieds. Merci Fab qui m'a motivée parce que j'avais tendance à pas assez croire à mes projets. Et à être un peu une branleuse aussi, donc bon, bah pas faire les trucs, c'est toujours moins fatigant que faire les trucs. Donc Fab m'a assez motivée pour que je le fasse, et moi je l'ai assez motivée à l'importance d'avoir une voix masculine et une oreille masculine dans ce podcast, en plus du fait que j'avais quand même assez peu d'expérience en interview et que Fab en a beaucoup beaucoup et qu'il est très fort là-dedans.
Tu sais que c'est Olivier qu'on a interviewé, qu'on avait benchmarké en fait, tu vois, pour lui proposer de venir.
Ouais, pour être potentiellement un invité.
Et qui nous avait dit, donc un ami à nous, qui nous avait dit, mais moi si c'est juste Mimi, je veux pas répondre. Et en gros, j'ai besoin d'avoir un mec en face de moi. Et c'est là que tu m'as dit, bah en fait, on pourrait le co-hoster. Et en fait, merci parce que ça m'a apporté tellement de choses.
Ah bah c'était trop bien.
Dans le premier épisode du Boys Club, Mimi a dit, alors les gars, j'ai attendu que vous lanciez un podcast, mais en fait,
l'avais
jamais fait. Alors je m'en occupe.
Et, je prends les choses en main.
Et en fait, bah voilà.
Il faut tout faire soi-même.
Et en fait, effectivement, t'avais commencé. Enfin, franchement, tu m'as apporté tellement de choses à ce niveau-là, à m'ouvrir justement à tous ces aspects de masculinité, parce que on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme et tout. Mais en fait, franchement, tu m'as tellement ouvert de voix là-dessus, et en fait, avec tellement de bienveillance et en fait, je comprends aujourd'hui, tu vois, les meufs qui sont en colère contre les mecs, mais putain, il y a tellement rien de meilleur que d'avoir une nana qui est capable, qui a, elle, un vécu, tu vois. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir bossé sur le sujet de du féminisme, etc. Mais en fait, d'avoir une meuf qui a un vécu particulier, etc., qui vient de dire, allez, viens, je vais te montrer comment ça marche. Et t'es là, ok, d'accord, parce qu'en fait, moi, tu sais, à la base, moi, je suis un gars, donc je suis pas censé montrer mes émotions. Hein. Et pourtant, j'avais l'impression que par rapport à tous les autres mecs, j'étais déjà très très haut, tu vois, en termes de capacité à m'ouvrir, à être dans les émotions et tout, mais tellement pas.
Ce qui est marrant, c'est que moi, pour une meuf, je me suis pas mal construite avec des codes masculins, j'ai pas mal rejeté les codes féminins, et notamment sur l'ouverture aux émotions, je suis débile, enfin, c'est tout le travail avec ma psy depuis 3 ans de m'aider à me connecter à mes émotions et à être en vulnérabilité et arrêter de juste aller me planquer et mordre quand je vais pas bien ou que je me sens en défaut, quoi. Donc on a fait le même boulot de s'ouvrir sur nos émotions dans une perspective totalement différente, et c'est peut-être pour ça que ça a bien fité, c'est que finalement on n'a pas le même maillot mais on a la même passion, tu vois. On était en te parle, en fait t'as créé un magazine qui m'a permis d'être une femme libre, et en bossant pour ce magazine ça nous a permis d'avoir une relation libre, pas relation du couple libre, mais une relation où il y a de la liberté, qui du coup m'a permis d'explorer les masculinités et de t'aider à devenir un homme plus libre, et au final, bam bam, incroyable ou pas ? C'est fou quoi.
Trop bien.
Le cercle vertueux.
Du coup, j'ai envie de vous poser la question tout de suite, même si j'avais prévu de vous la poser plus tard. Vous avez envie de retravailler ensemble sur certaines choses ou pas ?
Yes, alors, je retravaille avec plaisir avec Fab. Je ne retravaillerai pas, je pense, pour Fab. Je pense qu'il y a un truc de hiérarchie où, en fait, au final, moi, je suis si contente de notre relation actuelle, depuis qu'elle est, parce que je suis d'accord avec ce que t'as dit au début. Elle est encore mieux depuis qu'on travaille plus ensemble. Et je pense qu'en fait, elle est encore mieux parce
que tu n'es plus ma salariée.
Oui. Parce que, voilà. Parce que on travaille ensemble, j'étais sa salariée. On est de facto sur un pied d'égalité. Et en fait, on l'était déjà avant, intellectuellement, mais du coup, il y avait forcément la hiérarchie qui, à un moment, voilà, il faut bien trancher et tout. Et en fait, pour le coup, je sais qu'on n'a jamais vraiment eu d'embrouille personnelle, même de ton qui monte.
Par contre, il y a eu du ton qui monte parfois pour des trucs de taf, comme on l'a dit. C'est pas une bonne idée, on fait ça maintenant, non, on fait ça après-demain, blablabla.
C'est une tête de mule, hein, putain.
Oui, et puis le mec, quand il a une idée, il décide que c'est maintenant qu'il faut la faire et pas après-demain quand on aura du matos pour la faire. Donc,
bonjour. Tu vois, ça,
c'est une réalité fois, on se frottait un peu, quoi. Mais du coup, il y avait ce truc de hiérarchie et maintenant il n'y a plus du tout. Et en fait, on marche beaucoup mieux à égalité. Parce que c'est chiant pour chacun, je pense que c'est chiant pour toi de finir par dire, en fait, Mimi, c'est moi le chef, c'est moi qui vais décider. Et c'est chiant pour moi de finir par dire, en fait, je suis pas la chef, donc décide, et on marche mieux à égalité. Donc j'ai très hâte de retravailler avec Fabrice. Je pense pas que je retravaillerai pour toi. Et en même temps, c'est pas un no-go.
J'ai pas envie, moi.
Je pense qu'on bosse mieux à égalité, tu vois.
Ouais. Peut-être qu'un jour, tu travailleras
pour moi, mais on ne sait pas.
J'avais dit, t'as entendu? Peut-être ouais. Un jour on s'associe.
Moi j'ai décidé de devenir ta girl boss, toi t'es la baby, on va faire l'égalité à fond.
Non, c'est une vanne, en vrai je peux le prendre. T'imagines de faire des entretiens annuels, alors Fabrice beaucoup
plus temps dans ses
objectifs. Je suis une bonne manager en plus, mais j'ai pas envie d'être ta manager.
J'adorerais.
Mais non. Aujourd'hui c'est pas sur les rails quoi, enfin c'est pas...
Bah j'ai un travail, donc en fait...
Mais après tu pourras avoir envie de faire autre chose en plus à côté.
Non mais on a fait des lives sur Twitch, ouais. Tu vois, sur ma chaîne par exemple.
On fait ça avec toi là, tu vois, dans ce podcast, on a plein d'occasions de... En fait on continue à créer du contenu ensemble, juste bah j'ai un job, donc pour l'instant c'est mon job, c'est pas du travail salarié rémunéré que je fais avec Fab, mais c'est un plaisir. Et oui, enfin en tous les cas on va continuer à se parler beaucoup, aimer parler dans des micros aussi, et créer du contenu, donc... On est là pour rester, quoi. Le duo infernal.
Pour parler de ton départ de Mad et de la vente, etc., comment t'en as parlé avec Mimi? Parce que, alors, moi, de mon point de vue extérieur, j'imagine quelque chose de... Il faut préserver tout le monde, il faut l'annoncer à tout le monde en même temps. Et en même temps, il y avait le confinement. Et en même temps, Mimi, c'est ton amie. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui font que... comment est-ce que ça s'est passé, le désir de... J'ai envie de laisser ce magazine, comment j'en parle à Mimi, etc.
Bah, le point de départ, c'est quand même la mort de mon associé, qui s'appelle Denis, qui lui aussi est mon mentor, qui a 15 ans de plus que moi. Donc c'est marrant parce qu'il y a un truc, tu vois, qui joue là, de passage de génération.
Vas-y,
aussi.
Vas-y, il meurt pas à 52 ans, putain.
56.
Il avait... Ouais, bah non plus.
Ni l'un ni l'autre.
C'est pas mon objectif de vie, enfin, franchement.
Une meilleure légère de vie.
Donc. J'en sais rien, on verra. Il faut pas faire le malin, quoi. Mais ouais, donc ce décès là qui arrive de façon très brutale dans ma vie, Denis a jamais eu d'alerte cardiaque ou quoi que ce soit, tu vois, le mec meurt en 30 minutes, on avait un coup de fil, on se passait un coup de fil, tu vois.
Il était à Paris, il était à Lille.
Voilà.
Oui, vous travailliez ensemble, enfin, il travaillait pour Mad.
On travaillait au quotidien.
En fait, c'était la pourdouche et Mad, on le voyait pas beaucoup, l'équipe très peu, nous les managers, donc Clémence Baudoc était la rédac chef, moi et la régie commerciale, la directrice commerciale et Fab, bien sûr. On se voyait un peu plus régulièrement, mais vraiment pour des points stratégie long terme, genre qu'est-ce qu'on fait. C'était deux trois fois par an, deux à la fois bilan et stratégie long terme, donc moi je l'aimais beaucoup, et j'étais une de celles de l'équipe qui le côtoyait le plus, mais c'était déjà pas grand-chose, quoi. Après, toi t'étais très
moi,
proche
de lui. Enfin, tu vois, c'est le gars avec qui j'ai grandi, quoi, tu vois. J'ai rencontré quand j'avais 20 ans, enfin, tu vois, il y a un peu ce truc aussi de...
C'est ton fab, un peu.
C'est un peu mon fab.
Et en même temps, t'es la version 2.0, clairement.
Oui, je...
Il y a plein d'erreurs qu'il a faites que t'as pas faites. Et si un jour je suis le fab de quelqu'un, j'aurais appris plein de choses.
Oui,
de toi,
il y en a d'autres que... Putain, c'est clair. Denis était un mec qui avait 56 ans, si tu veux, donc... Il y avait vraiment un vrai décalage de génération dans notre rapport au féminisme. Et pour autant, c'était un mec hyper ouvert sur plein de choses, tu vois, aussi, qui apprenait énormément, qui était extrêmement curieux. Et je crois à qui j'ai apporté aussi plein de choses, tu vois, quand j'avais 20 ans. Donc il y a eu un peu une sorte de tu vois, de passage de relais, c'est marrant. Et donc, ouais, le gars meurt, et moi, ça me... Enfin, c'est juste, mon monde s'écroule once again, quoi, tu vois, et pour le coup, Mimi et Clémence sont hyper touchées aussi par le sujet, parce que bah, elles bossaient pas quotidiennement, mais en fait on échangeait quotidiennement sur les papiers, sur l'aspect rédactionnel, etc. Et bon, le mec meurt. Et moi, en fait, je crois que c'est à partir du printemps que se dessine l'idée de ok, en fait, ça fait quelques années que, tu vois, il y a eu Mademoiselle, je vais pas bien, J'avais eu dans l'idée de vendre à l'été 2017, tu vois, donc ah ouais, un an plus tard. Un an après Mademoiselle, où vraiment je me suis dit, ok, je crois juste que je suis en train d'associer, et c'est ce qui s'est passé, tu vois, la boîte à une tentative de suicide, ou en tout cas des idées suicidaires, et à un moment donné où c'est pas très sain, quoi, tu vois. Mais à l'époque, pour plein de bonnes raisons, je trouve pas de repreneur, et en fait je me dis, bon, bah ok. En fait, Denis qui meurt, c'est un peu le wake-up call de il faut faire quelque chose, quoi. Donc ça arrive au printemps, en fait, tu vois, où. Je me dis, ok, peut-être qu'en fait, il y a ce truc-là qui se dessine et qu'il faut y aller, quoi. Donc, j'en parle assez rapidement à mes N-1, donc à l'équipe très proche, si tu veux, des gens avec qui je travaille directement, à leur dire que, en fait, j'ai ce projet-là, de leur dire que je les tiendrai au courant, que tout va bien se passer,
que ça va prendre du temps,
parce qu'en fait...
C'est pas comme une démission, quoi. Et voilà. C'est aussi pour ça que... C'est pas une bonne idée de l'annoncer à tout le monde en même temps. Ouais. Un gros changement. Enfin, plus la personne est haut placée, plus l'info se distille, parce que sinon ça fait paniquer tout le monde. De se dire, mais attends, mais machin, gère tellement de trucs s'il part, comment on va faire? Donc l'info se distille d'abord les N-1, puis plus ça avance et plus ça devient une réalité proche, plus on met les gens.
Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, les briefer sur où j'en suis moi, sur où en est la négociation, etc. Et en fait, parfois la négociation patine, il faut quand même leur dire, parce qu'en fait la négociation est en train de patiner, et c'est pas très grave. Et surtout qu'en fait, une fois que moi je sais à peu près où je vais, de leur dire, et de leur dire clairement, et qu'elles puissent aussi rassurer les équipes, leur N-1, quoi, tu vois, parce qu'en fait ça fait un râteau, une boîte, quoi, tu vois. Au bout d'un... Chez Mademoiselle, c'était ça, à la fin, tu vois, il y avait des N-1, avec des N-2, etc. Bref.
Même pour la boîte, c'est les personnes qui sont chargées de la stratégie long terme, donc si elles sont pas au courant qu'il va y avoir un changement de grande ampleur, tu fais des plans sur 2 ans, et en fait, si tu sais pas qu'il y a un projet de vendre, bon voilà, qui va prendre plus ou moins de temps, mais qui a priori va pas prendre 10 piges, c'est compliqué de se projeter, donc c'est essentiel que assez vite les personnes dans des rôles stratégiques aient l'info qu'il y a au moins un changement qui va se passer, quoi.
Et mon objectif, moi, c'était que tout le monde reste, que je trouve un repreneur qui a envie de garder un peu la ligne dans laquelle j'avais construit, tu vois, des sillons depuis 15 ans. Et donc, fallait forcément que l'équipe dirigeante soit derrière moi, en fait, et soit derrière ce projet, et m'accompagne aussi, tu vois. Donc ça va dans ce sens-là, quoi. Je sais pas après quel était le sens de ta question.
Bah, c'était savoir, en fait, si t'avais d'abord commencé à évoquer le sujet en privé avec Mimi en disant, bah voilà, j'ai un peu envie de.
T'as fait une réponse tellement pro, t'as fait une réponse tellement entrepreneur. Genre, ouais, j'ai du courant mais N-1 et tout. Quand tu m'as dit, je vais vendre Mademoiselle, t'as pas mis au courant ta N-1. Tu m'as dit, Mimi, je vais vendre. Enfin, j'avais 3 verres posées dans le pif, j'avais passé une sale journée et tu m'as dit, tu sais, Mimi, c'est important que tu le saches, je vais vendre.
Je te l'ai dit en premier.
Ok, grosse info.
Je te l'ai dit en premier, ouais. Je l'ai dit en premier à Mimi avant tout le monde, mais en fait Mimi elle était là depuis tellement longtemps, si tu veux, que forcément.
Oui, et puis Mimi méritait d'avoir la primeur. Denis, qui nous avait touché beaucoup plus qu'il a touché l'équipe, puisque l'équipe connaissait pas Denis. Enfin, on avait été rapprochés aussi récemment. On avait traversé pas mal de trucs, quoi. Donc c'était à la fois une info en tant qu'ami sur tiens mon ami, je vais changer un grand truc dans ma vie, je vais vendre ma boîte. Une info en tant qu'ami de cher ami, pour info. Je vais vendre la boîte dans laquelle tu travailles, et une info de boss à employer, mais qu'on a fait de façon beaucoup plus formelle après, parce que ça va impliquer pour la boîte et tout, pour le coup, le patron vend la boîte, ça va changer, il va y avoir un repreneur. Il y avait ces 3 strates, c'est sûr, dans l'annonce, mais la première, c'était un truc d'amitié de... Il faut que je fasse autre chose de ma vie, et du coup, la double lecture pour moi de... Mon ami va faire autre chose de sa vie, c'est super, et non, mon ami va être plus loin, et c'est aussi mon boss et mon mentor, et ça va changer plein de choses, donc c'était tout un truc à... Mais moi, dans mon souvenir, je t'ai dit que ça allait prendre du temps, ce qui est déjà un truc pour moi. Ça veut dire que j'ai appris à comprendre mes
amis. Cette thérapie, bravo.
Avant, j'aurais juste dit « ok vu » et j'aurais fait comme si de rien n'était. « Ok vu, je vais digérer, je reviens vers vous ». Je me souviens que t'es partie en vacances, quoi, entre-temps, c'était l'été. Et je t'ai dit « ok, c'est bon, j'ai digéré, j'ai passé une nuit d'insomnie. »
C'était au printemps, mais...
Ouais, enfin, je me souviens qu'il faisait chaud, enfin, il faisait beau. J'ai passé une nuit d'insomnie à me dire « ah ok, c'est là que mon cerveau a décidé de percuter. Donc j'ai passé une nuit à y réfléchir, à pleurer un peu, à être contente pour toi aussi, à penser à plein de choses que ça allait impliquer, à ce que ça me faisait ressentir aussi. Vivre la thérapie. Et du coup, je sais qu'on s'est vu dans un café et je t'ai dit, voilà, là c'est moi qui parle, et je t'ai dit toutes les émotions contradictoires de je suis trop contente pour toi, je suis trop contente pour la boîte parce que si t'as plus envie de la faire, il faut pas rester.
J'ai peur pour la boîte, j'ai peur pour toi, j'ai peur pour moi, je suis contente pour moi parce que c'est aussi un nouveau départ. Enfin, tout ce truc très confus, mais tout était vrai, quoi, tout était réel. Et il n'y avait pas vraiment de réponse ou de... Tu vois, c'était juste genre, voilà tout ce qu'il y a dans ma tête. Mais à la fin, le plus important, c'est tu veux faire ça, va faire ça, va faire ce que tu as envie de faire. Et je voyais bien que... Enfin, j'étais là toutes les fois où ça t'a fait du mal d'être le boss de cette boîte, donc je pouvais que être... contente, en fait, pour toi aussi que t'aies pris cette décision, quoi.
Et en fait, moi, dans ma tête, franchement, Mimi, elle était prête. Alors, Mimi ne savait pas qu'elle était prête.
Non.
Mais moi, je savais qu'elle était prête. C'est-à-dire que moi, je savais qu'elle était
prête. Il avait
prête
la primeur de l'info, moi,
pour,
je l'avais.
Pour affronter, tu vois, un nouveau boss, des nouvelles personnes, un rachat aussi. Enfin, pour moi, elle était calée, quoi. Tu vois, il n'y avait aucun problème. De ce que j'avais pu voir depuis un peu moins de 10 piges, mais de ta façon d'avoir grandi, tu vois, au sein de la boîte, à la fois professionnellement, humainement, je t'ai vu fleurir, en fait. Et pour moi, en fait, j'étais pas, je crois que, tu vois, 2 ans avant, donc en 2017, j'étais pas prêt à plein d'aspects, la boîte n'était pas prête à plein d'aspects, mais toi non plus, t'étais pas prête.
Ouais.
Et en vrai, et d'autant plus pendant l'année après qui s'est écoulée, tu vois, de 2019-2020, on va dire, il y a eu le confinement, enfin, tu vois, la façon dont tu as géré l'équipe, en fait, il n'y a aucun problème pour toi, quoi, tu vois. Tu vas être canon. Et en fait, moi, le truc que je leur ai dit aux repreneurs, je leur ai dit, en fait, ça fait 15 ans que j'affûte mes skills de recrutement, de management, et en fait, je vous ai trouvé la meilleure équipe, je vous laisse la meilleure équipe que j'ai jamais eue entre les mains, quoi. Et t'étais le fer de lance du truc, quoi. Donc ouais, voilà.
Vous avez eu peur pour votre relation?
Pas moi, en vrai, pas vraiment. J'ai assez vite fait la paix avec le fait que même des collègues dont t'étais très proche, souvent en fait, t'es pas vraiment ami et tu les vois plus après. Et je pense que le bon métrique, c'est est-ce que tu les vois le week-end ou pas. Parce qu'il y a plein de gens avec c'est super d'aller boire une bière après le boulot et ça se transforme en canne-bière. Mais si t'as pas le déclic de les voir le samedi et le dimanche quand t'es pas déjà payé pour être dans la même pièce, c'est que probablement vous êtes pas vraiment amis. Et donc j'avais assez vite fait la paix avec le fait que beaucoup de gens dont j'avais été très proche chez Mademoiselle, au final, partaient faire autre chose et moi je restais. Et en fait, bah, on gardait pas tellement contact, c'était ok. Mais j'ai jamais eu, je pense que sur la fin, on était déjà plus amis que patron employé parce qu'en plus, sur la dernière année, entre le fait
Denis,
que tu me...
La mort de Denis a scellé plein de choses aussi entre nous.
Ouais, je pense qu'on est devenus vraiment que amis, plus amis qu'autre chose à ce moment-là. Ouais. Et sur la dernière année, du coup, donc moi je savais que Fab voulait vendre. Ça a pris une petite année,
ouais.
Un peu repoussé avec le confinement et tout. Donc Fab était à la fois dans cette démarche de me responsabiliser, de me lâcher la bride et de voir que je m'en sortais. Et aussi, bah, t'étais un peu démissionnaire parce que t'avais envie de faire autre chose. Je pense que ça te faisait plus kiffer autant qu'avant le projet.
Ah, j'étais pas démissionnaire. Vraiment, moi, je sais que vous, de votre côté, vous l'avez vécu comme ok, Fab, il est en train de démissionner.
Un peu, ouais.
Mais moi, je savais qu'en fait, j'étais en train de me casser parce que c'est un rachat. C'est assez rare les rachats où le fondateur ou le patron se barre, quoi. Tu vois, généralement, il reste pendant quelques années parce qu'en fait, mais moi, c'était mon intention, c'était de partir. Et en fait, je savais pertinemment que depuis 2017, j'avais vraiment organisé la boîte pour qu'il y ait des gens forts à la tête de chaque pôle, si tu veux. Notamment les 6 derniers mois, je vous ai juste regardé faire. Mais en fait, j'étais pas du tout en train de démissionner. Pour moi, j'étais vraiment en train de me dire, en fait, c'est la boîte telle qu'elle va exister dans quelques mois. Il faut que je vous voie faire, et en fait je vais vous laisser faire. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps avant de vous le dire aussi clairement, mais je me souviens que c'était, on a profité du confinement d'ailleurs, j'ai réuni tout le monde pendant le confinement en vous disant, en fait c'est le confinement, j'ai juste envie de, moi je suis, on est chacun chez soi et tout, j'ai envie de vous voir, de vous regarder faire, je suis là si vous avez besoin de moi, mais sinon je ne vais plus intervenir. Sauf si vous avez besoin de moi.
Mais en vrai, c'est vrai que t'étais là quand on avait besoin de toi, mais on était tellement l'habitude du Fab qui prend la place qu'il prend, quoi, et qui a plein d'idées et tout, que ça.
Au bout d'une semaine.
Par contraste, ça faisait bizarre.
Où t'es ? Je suis toujours là.
Tu vois Animal Crossing comme tout le monde en fait.
J'étais derrière mon ordi, je regardais les trucs et je disais.
Alors c'est très bien.
Je joue à SimCity.
Je jouais à Animal Crossing. Parfois pendant les
réunions. La rédaction. Bravo.
Mais du coup, en fait. Quand le rachat a été acté, donc en juillet 2020, ça faisait déjà un moment qu'on n'était plus vraiment patron et employé, et qu'on était amis, et qu'on parlait de plein de choses de nos vies, et que voilà, on parlait plus de l'après, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et tout. que de trucs de taf, quoi.
Moi, j'ai eu toute une période où j'avais eu peur de loin des yeux, loin du cœur, tu vois. Et aussi où bah, le rachat s'est passé plutôt bien, si tu veux, mais il y avait des secousses, tu vois, il y avait toujours des trucs. Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu venais me raconter, je crois qu'au bout d'un moment, je t'ai dit...
Arrête de me parler de trucs de boulot. Ouais.
Arrête de me raconter mademoiselle, en fait, parce que je suis plutôt du genre à aimer régler les problèmes, tu vois. Et Mimi venait souvent avec des problèmes qui n'étaient pas dans ma sphère de travail, si tu veux. Donc, je pouvais lui dire, OK, si t'as vraiment besoin d'aide, je peux venir. D'ailleurs, on a eu vraiment une vraie discussion là-dessus.
Ouais. Tu m'as vraiment dit un stop, plus. On va baliser.
Je veux plus. Si t'as vraiment besoin de moi et que t'as besoin que j'intervienne, machin, tu viens me voir. Et en fait, je serais très heureux de pouvoir te donner des conseils, mais si c'est juste pour faire « Ah, il y a ceci qui est compliqué, il y a machin qui est compliqué et tout », je suis là « Ça m'intéresse
oui,
pas,
en fait, démerde-toi. » Oui, en fait, je venais raconter mes bails comme on raconte ses bails de boulot ou de fac à ses potes, et en fait, bah c'est pas pareil quand c'est ton pote qui a fondé la boîte où tu travailles, qui a travaillé avec toi pendant 8 ans, 9 ans, qui a vendu la boîte à ses gens, donc si toi tu dis « Bah, ça se passe pas bien », il y a un côté « Bah, je suis responsable, si ça se passe pas bien, peut-être que j'ai mal choisi », enfin... C'est plein de trucs que mes potes n'ont pas quand je leur parle de mon taf. Mais effectivement, si j'avais besoin de... Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? J'hésite entre ça et ça dans telle situation. Il n'y avait pas de souci. Et t'étais là pour m'aider. Mais c'était juste pour râler en mode « Oh, il y a ça qui me saoule, mais c'est pas grave, je m'en occupe lundi. » Bah, je comprends que t'es pas eu envie.
Et puis je me souviens qu'il y a eu toute une période aussi où j'avais je te foutais des coups de pied au cul et tu les... T'en voulais pas, en fait.
Non, j'étais là, laisse-moi aller à mon rythme.
Je disais, bah, en fait, viens pas me voir si tu veux pas te couper au cul, quel est l'intérêt, quoi. Si tu veux juste que je te prenne et que je te fasse un petit câlin en disant, mais ça va bien te passer. En fait, j'avais pas envie d'avoir ce rôle-là. Alors, je peux l'avoir dans plein d'autres situations, tu vois, mais dans ce rôle-là, par rapport à ta vie chez Matt, j'avais pas envie d'y être, quoi. Ça m'intéressait pas.
Mais c'est trop bien.
C'était trop cool d'avoir mis des limites.
Oui. C'est trop bien que tu parles de ça parce que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on est des bons amis. C'est que on sait bien comment on fonctionne, on s'est à la fois pas mal auto-analysé en thérapie, etc. Plus on communique pas mal et on est très intéressé par comment les humains fonctionnent, tout ça. Et du coup, bah par exemple, je sais que Fab c'est un solveur de problèmes, quoi, et que bah quand on va le voir avec un problème, son premier réflexe ça va être de proposer des solutions. Et parfois, quand on amène un problème, on a besoin d'empathie et pas de proposer des solutions. Et je me souviens que l'an dernier, confinement année 2, Covid année 2, c'est quand même chiant, c'est long. J'ai eu un moment où j'étais un peu désemparée parce qu'il y avait plein de mes proches qui allaient pas bien, machin est en burn-out, truc n'en peut plus de sa vie. Voilà, tout, bah, c'est le Covid, personne va bien. Et bah, j'étais un peu désemparée parce que du coup, les gens à qui d'habitude je me confiais n'allaient pas bien. Et moi, ça me faisait aller pas bien. Mais j'avais personne à qui en parler parce que les gens à qui d'habitude je me confiais n'allaient pas bien. Je voulais pas leur ajouter le fait que t'ailles pas bien me fait aller pas bien parce que ça ne servait à rien. Et donc j'ai fini par dire à Fab, bah, est-ce qu'on peut aller boire un verre et lui dire, en fait, je suis désolée, je vais te raconter mes problèmes et il y aura pas de solution. Je veux pas que tu me donnes des solutions, je veux juste que tu me battes pattes. Et je lui ai dit, je suis désolée parce que je sais que pour toi c'est pas naturel et que ça va te demander de te faire violence. Mais les gens qui d'habitude, juste, je vais râler, je vais chouiner et ils me disent « Oh, c'est trop chiant, vas-y, on va manger une pizza », ne sont pas disponibles. Et c'est ça mon problème, donc il faut bien que je le raconte. Et en fait, je sais comment ils fonctionnent. Et si je l'avais pas su et que j'étais arrivée très naturellement avec mon besoin de moins et qu'il m'avait direct trouvé des solutions, j'aurais dit « Ah, mais il est chiant, il m'écoute pas ». Si, et lui, il aurait été dans une position de « Mais elle est hyper chiante, je lui amène des solutions à ses problèmes et elle préfère moins ». Mais en fait, on se connaît, on se parle, on se sait. Et donc je peux tout à fait mettre le bon contexte de « Ok, c'est pas ton forte, mais là je vais te demander d'être juste une épaule attentive et bah, soit une épaule attentive et tu peux très bien le faire, mais c'est mieux quand on te prévient. Voilà mon besoin, en fait, il n'y a pas de souci, t'es là, quoi. Et quand t'as besoin de moi, tu sais aussi comment trouver l'ami dont t'as besoin. »
Et aujourd'hui, la relation que vous avez, comment est-ce que vous avez retrouvé des habitudes de vous voir régulièrement, peut-être? Parce qu'avant, vous voyiez tous les jours parce que vous alliez au même endroit. Et ça a changé du... Bah, bon, il y a eu le confinement, donc pas du jour au lendemain, parce que, enfin, vous avez été obligé de passer en télétravail, mais en tout cas, quelles sont vos nouvelles habitudes depuis que... Bah, Fab, tu n'es plus le patron de Mad.
Je crois que ça se fait assez naturellement. On n'était pas très loin géographiquement, déjà. T'es resté à Paris, moi aussi. Les nouveaux bureaux de Mademoiselle sont toujours au centre de Paris, donc je me retrouve pas exilée à Neuilly ou à Levallois... à me taper une heure de transport pour rentrer. Et du coup, bah, assez naturellement, c'était « Ah, je suis dans le quartier, on boit un verre. Ah, faut que je te raconte ci, on va voir un film. On a toujours nos petits rendez-vous, les séries qu'on aime bien. Fab a un chouette appart où cuisiner et recevoir, donc j'aime bien cuisiner, j'aime bien aller lui faire à dîner. »
Magret de canard.
On adore. Et bah aussi, on n'a jamais vraiment arrêté de créer du contenu. On a assez vite, tu vois, que ça soit moi qui viens passer une tête sur Twitch ou des choses comme ça, ce qui sont des bonnes occasions de se voir, et comme on cause énormément, du coup ça prend longtemps, et on a le temps de se dire plein de choses. Et puis on a aussi encore des potes en commun. Il y a tes filles que j'aime bien, donc que j'aime bien voir quand elles sont là. Enfin, on a plein d'occasions.
Tu vois, par exemple, ma fille aînée, elle a été en... Elle a passé une semaine en HP, elle a eu un vrai gros souci de santé mentale en début d'année 2020.
Donc en hôpital psychiatrique pour ça.
Ouais, clinique. On dit plus hôpital psychiatrique.
Ah, pardon, d'accord. Okay.
Clinique psychiatrique.
D'accord, bah, ok.
Voilà. Je savais pas, mais voilà. Et en fait, assez naturellement, je crois qu'il y a un moment donné où c'est un type, si jamais il y a des parents qui écoutent, des parents d'ados, je trouve que c'est cool de leur filer des adultes référents, en fait, que tu peux, qui peuvent servir de relais. Et en fait, bah, forcément, on s'est retrouvé dans une soirée avec ma fille, parce que ma fille passait une semaine chez moi après sa convalescence ou un truc comme ça. Et en fait, j'ai vraiment officialisé le fait que Mimi pouvait, enfin ma fille pouvait appeler Mimi et que Mimi pouvait lui dire exactement tout ce qu'elle voulait, que c'était ok.
Ouais, tu m'en as parlé avant, tu m'as dit
trop
est-ce
cool
que c'est
pour
okay
moi
si je lui dis ça. Et pour moi, c'est un super rôle. Enfin, je suis une grande sœur dans la vie, j'ai une petite sœur, j'ai une grande sœur aussi, donc je sais que c'est cool. J'ai des cousines avec qui je joue un peu ce rôle et je veux pas d'enfants, mais j'aurais bien aimé à l'âge de ta fille avoir des adultes référents cool qui soient pas mes parents, parce que les parents forcément c'est différent. Et j'ai assez vite à 20 ans eu un adulte référent cool qui était pas mes parents, qui était Fab, donc si je peux aider. Et puis
et ma fille a 15 ans de moins que...
Et ben voilà, c'est tout trouvé.
On n'a pas, elle s'en est pas encore servie, on n'a pas encore eu le bas de signal alerte Mimi, mais elle sait où me trouver.
Et là, il y a une question sur papa, l'été prochain, j'ai un tatouage, j'aimerais bien faire un tatouage, et en fait à 16 ans, il y a moyen, est-ce que machin. Je me suis dit, putain de merde. J'ai dit, écoute, peut-être tu pourrais en parler aux gens. Donc il y a Marion, il y avait Mimi et Marion, tu vois. Marion Séclin, que j'ai également mis dans cette boucle-là. J'ai dit, peut-être tu peux en parler aux filles autour de toi. Qui...
Ah, tes deux adultes référents, voilà, ce sont des femmes tatouées.
Qui ont des tatous, par exemple, tu vois.
Par rapport à ton père qui est un homme non tatoué, finalement, on n'a aucun avis sur la question.
Et j'esquive une balle géniale. Vraiment.
J'attends le DM, Lina, si tu écoutes ça, viens me parler de toi.
Est-ce que, justement, par rapport à ça, vous avez mis, je sais pas, un espèce de contrat, si Lina t'appelle, que Fab, t'as pas forcément envie de le savoir, ou est-ce que, justement, c'est...
On s'en est pas parlé parce que la situation s'est pas présentée. Après, je vois bien de quoi tu parles, il y a peut-être des choses qu'elle me dirait. Je pense que, déjà, je fais confiance à Lina pour me dire ce qu'elle veut pas que je dise à Fab. Mmh. Parce qu'elle est habituée à dire ce dont elle a besoin et que je pense qu'elle sait qu'elle peut me faire, enfin, si elle fait la démarche de me parler, c'est qu'elle a confiance en moi. Et moi, je sais que je respecterai ça. Après, je sais aussi que je suis une adulte et que c'est une mineure, donc si c'est des trucs vraiment dangereux, j'ai un rôle aussi d'alerter ses parents, quoi, les tuteurs légaux. Mais tout ce qu'elle me dira ne sera que dans le but de m'aider à mieux la comprendre et l'aider. Et du coup, tout ce que moi, je transmettrai à Fab, c'est pas forcément les faits précis, c'est plus elle a l'air d'avoir besoin de ci, besoin de ça, ou bah, je pense que si jamais... On a cette relation qui se développe avec Lina. Peut-être qu'il y a des moments où je serai là. Lina a un bail, mais je pense que je peux gérer avec elle. Et si on s'en sort pas, je te dirai. Mais t'as pas besoin de tout savoir. C'est aussi ça à grandir. C'est et bah je sais qu'il y a des âges où t'as le droit d'avoir ta vie, ton jardin secret. Et tant que tu vas aussi faire des conneries, mais bon, c'est ça la vie. Juste que t'aies des gens à qui en parler si tu te rends compte que t'as fait des conneries.
Et franchement, moi, le fait que Lina puisse avoir une oreille comme Mimi, je suis ultra détendu, quoi, tu vois. Vraiment, je me dis, elle entre de bonnes mains, quoi, tu vois. Parce que, effectivement, je sais aussi qu'elle a des limites et qu'elle saura me dire, à un moment donné, si ça doit me concerner ou si ça doit concerner sa
mère. Oui, si la gamine, elle part en full euphoria à croquer de la MDMA à 15h, j'appelle pas, parce qu'il y a pas de... Attendez, c'est pas les privés, hein, tu
vois. Lina, si tu écoutes ça, attention. Elle osera plus t'appeler après.
Non, je déconne, on va m'aider. Pas de la MDMA,
c'est... Pour parler de vos bons moments et des moments, parce qu'on a parlé aussi pas mal des moments difficiles, etc. C'est quoi si vous deviez choisir qu'un moment, c'est lequel le meilleur moment que vous avez vécu ensemble?
Franchement, c'est trop dur. 10 ans, wesh, c'est long. 10 ans à se voir 5 jours par semaine, 52 semaines par an, moins les vacances légales, donc 49 semaines par an, je sais pas compter, bref. Le premier truc qui m'est venu en tête, j'ai fait un bac L. Le premier truc qui m'est venu en tête, c'est on a tellement de fou rire. On a vraiment eu tellement de fou rire. Et je pense, quand je pense à un bon moment avec Fab, je vois la tête de fou rire de Fab où il est très rouge et il a une veine sur son crâne. Et c'est même...
ma tête crève.
Mimi est tellement drôle. Oh là là.
Et c'est, enfin, c'est con, mais en tant que meuf, t'es souvent complimentée sur ton apparence plus qu'autre chose. Et je pense que Fab, ça a été un des premiers mecs, parce qu'il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté, quand bien même je suis une femme hétéro et t'es un homme hétéro, il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté d'aucune sorte de est-ce qu'il y a désir d'aucune forme. Et c'est aussi un des premiers mecs qui m'a complimenté sur autre chose que mon apparence, en me disant que j'étais intelligente, que j'écrivais bien, et que j'étais drôle. Et je pense que t'es la première personne à m'avoir dit que j'étais drôle.
Ah ouais?
Et en fait, quand les gens te disent que t'es drôle, bah t'as envie d'être drôle.
T'es tellement drôle.
Mais bah, merci.
Je crois que c'est rare qu'on dise à une femme qu'elle est drôle aussi.
Hein. Oui, il y a aussi le prisme du genre, en plus qu'un homme dise à une femme qu'elle est drôle. Et que ce soit même pas pour la serrer, c'est quand même, faut le dire, c'est rare. Donc moi j'aime beaucoup te faire rire et
Mimi m'a fait un cadeau d'anniversaire. Je tiens à le dire. Donc
c'était ton anniversaire post-mademoiselle.
Post-mademoiselle, donc
un mois et demi après.
Voilà. Mimi m'a fait un récap rigolo du film The Revenant qu'on est allé voir avant ensemble il y a quelques mois avant. Ou je sais plus comment ça s'est passé, mais en fait dans la projection.
C'est toi, t'es un con. Ah, genre 10 minutes, donc c'est DiCaprio qui galère dans la neige parce qu'il s'est fait goumer par un ours. C'est très chiant. À 10 minutes du film, à un moment, je sais plus quoi, tu m'as glissé une ref à mes récap rigolos, genre tu m'as dit snip snip ou quoi, parce que je faisais des récap rigolos de Game of Thrones sur Mademoiselle. Et du coup, ça nous a juste mis dans la tête, est-ce que ça ferait un bon récap rigolo? Et en fait, oui. Et du coup, à chaque scène, on se regardait, mais on était en projection presse. Genre, vraiment, c'est des professionnels, ils sont là pour regarder un film à Oscar, je sais pas, Scorsese, mon cul, je sais pas.
Tellement envie, putain.
Et on était MDR comme des ados en mode. Et vraiment, ça, c'est fou rire. Faut pas se regarder parce que quand tu te regardes, ça te relance. Franchement, le film, il dure ultra longtemps. Genre, il dure 2h40, on a dû mettre une heure à se calmer, et vraiment se calmer, c'était genre... Ouais,
je tiens à dire que Mimi a commencé en disant il y avait DiCaprio qui était en train de galérer, qui allait dans une rivière glacée, c'était horrible. Et elle me dit, cher journal, aujourd'hui je suis allée à la piscine, c'était chiant. Et en fait, le mec était à moitié mort. Ça m'a buté.
Voilà. J'avoue, je me suis pas aidée non plus, quoi.
Et en fait, elle m'a offert ce truc, ce récap rigolo qu'elle a fait rien que pour moi, qu'on a publié après.
J'ai fini par éditer les trucs trop perso et le publier sur Mademoiselle.
Et c'était fou, en fait, parce que je venais de démarrer ou pas, où j'étais à quelques jours de démarrer ma thérapie. Donc j'étais vraiment au plus mal. Hein. Et j'ai pleuré de rire. Mais comme j'avais pas pleuré de rire depuis au moins un mois et demi, tu vois.
Après, c'était un double cadeau. Il y avait une lettre touchante que tu devais lire en premier pour que tu chiales. Et après, un truc rigolo en mode, je vais pas te laisser chialer pour te faire
c'est vrai.
Donc, c'était l'eau et le feu, n'est-ce pas?
Ouais. Et moi, de mon côté, pour moi, l'un des moments très marquants, tu vois, c'est dernièrement pour tes 30 ans.
Oui, c'était l'autre idée que j'avais, donc c'est bien comme ça, on a les deux. Moi, c'est les faux rires, toi, c'est parler deep.
Comment ça s'est passé? En fait, il y avait un épisode de succès. T'as pris ta journée de...
Ouais, j'ai eu 30 ans un lundi, et j'ai décidé de ne pas avoir de réveil matin le jour de mes 30 ans, en tout cas pas pour aller au travail. Et donc j'ai posé mon lundi, et j'avais passé... donc mon week-end d'anniversaire était un peu en avance, et du coup j'avais passé un week-end normal, et le jour de mes 30 ans, je me suis dit qu'est-ce que j'aurais envie de faire toute cette journée qui n'est qu'à moi. Et en plus, je crois que mon mec aussi était en congé, et j'étais là, je vais faire autre chose, je vais aller faire ma vie. Et j'étais en plus, enfin, c'était un moment où j'allais emménager. J'allais emménager avec mon compagnon, j'allais donc quitter mon appart. Je réfléchissais à l'avenir. Enfin, il y avait un moment un peu charnière, un peu j'ai besoin de me recentrer sur moi-même et de pas. Enfin, avant d'inclure mon mec dans cette réflexion, j'ai besoin d'abord de l'avoir avec moi-même. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais envie de faire le jour de mes 30 ans? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse et qu'est-ce que je fais pas assez souvent? Et du coup, j'ai demandé à Fab. Je lui ai dit, est-ce que ça te dit que le jour de mes 30 ans, on passe ensemble et que juste on parle? Parce que c'est trop bien de parler avec toi. Et il se trouve qu'on regarde ensemble Succession, qui est une série HBO très qualitative. Écoutez Succession. Il y avait une nouvelle saison qui était en cours et donc le lundi, c'était le jour de Succession. Donc je lui ai dit, bah écoute, on se fait petit déj Succession, j'arrive à 10h, parce que d'habitude je devais attendre le lundi soir pour regarder. J'ai dit, j'arrive lundi à 10h du mat avec des croissants, on mate Succession, on est content. Et après, bah, j'ai toute la journée, soit on reste chez toi, soit on va se balader. Et juste on parle, quoi. Et si on a envie de mater un film, on mate un film. Si on a envie de jouer à la Switch, on joue à la Switch. Juste on passe une journée, je me suis dit, j'ai envie de passer la journée avec un ami, quelqu'un que j'aime sincèrement et qui m'aime sincèrement. Fab, c'est une des personnes que je côtoie qui me connaît depuis le plus longtemps. J'ai d'autres amis qui me connaissent depuis plus de 10 ans, mais pas non plus. Ça se compte sur les doigts d'une main, donc c'est assez précieux. Même mon compagnon, on se connaît depuis 3 ans, quoi. Et donc, il connaît pas tout un pan de la Mimi d'avant. Et il a connu que la Mimi qui avait déjà été pas mal aidée à grandir par femme. Et du coup, bah, on a passé cette journée où je suis arrivée, on a maté Succession, c'était super, on a mangé des croissants. Et après, on a parlé. En fait, Fabi m'a fait une thérapie express, mais en même temps très longue. Je pense qu'on s'est vraiment... On a fini l'épisode, ça devait être 11h. On s'est posé sur son canapé et je me souviens, il y avait une fenêtre face à moi et une fenêtre face à lui. Il y avait le soleil qui bougeait dans l'appart. Et on était juste posé sur le canapé à boire un peu de vin tranquillement, parler. On s'est fait un petit truc à manger et tout, on était contents. Et en gros, il m'a aidé à faire le point sur ma trentaine, sur comment je l'abordais, sur ma vie, plus simplement. En gros, sa question, c'est est-ce que t'es aligné avec qui t'es vraiment? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu fais par habitude ou par convention sociale ou parce que t'as peur de faire autre chose ou est-ce que t'es toujours bien dans ton job? Est-ce que t'es bien dans ton couple? Donc voilà, on va emménager ensemble. Bah, c'est le dernier moment pour back out. Ouais. Si en fait c'était pas une bonne idée, quoi.
Bon, après, tu peux toujours revenir en arrière, mais bon, faut mieux se poser les questions avant.
Idéalement, avant d'avoir fixé la télé au mur et déplacé tous les cartons, quoi. Il m'a fait réfléchir sur est-ce que j'étais bien à Paris? Est-ce que je suis bien? Est-ce que ma relation avec mes parents elle m'épanouit? Est-ce que mes amis me font du bien? Et c'était très... Alors, on a parlé de lui aussi, parce que c'était pas non plus un rendez-vous professionnel rémunéré. Mais on a beaucoup parlé de moi, et c'était super. C'était vraiment une super journée. Et le soir, j'étais au resto avec mes copains, c'était top. Mais c'était super, et ça a kickstarté plein de réflexions que j'arrivais pas à me motiver à avoir. Et ça m'a aidé à être plus éclairée sur mes choix, sur effectivement, j'ai vraiment envie d'emménager avec mon mec pour les bonnes raisons et tout. Et à aborder du coup plein de choses plus sereinement, parce que j'avais une forme d'angoisse, d'anxiété un peu latente et de un peu de frénésie. Enfin, j'étais un peu genre hyper tout était un peu intense. Et c'est en partie parce que j'étais dans des cycles et des rouages qui avançaient vite, plus le quotidien, le taf, faut faire les courses, faut faire des lessives, faut machin. Et j'avais pas pris le temps de réfléchir à est-ce que je suis ok avec tous les choix que je suis en train de faire. Et du coup, j'étais de façon inconsciente, anxieuse, de attends, meuf, est-ce qu'on va dans le mur? Et on s'est pas posé pour y réfléchir, et j'avais pas du tout pris conscience de ça. Et Fab étant quelqu'un qui écoute bien et qui pose des bonnes questions, et qui me connaît bien, on a passé une super journée. Et c'est encore plein de réflexions que j'ai aujourd'hui, et ça a kickstarté plein de choses qui commencent à porter leurs fruits et tout, donc quelques mois plus tard. Donc c'est super.
Vu que c'est toi qui as choisi ce moment, Fab, est-ce que tu peux dire pourquoi? Est-ce que pour toi c'était ce moment-là, en tout cas dans les récents, que t'as voulu garder?
Bah parce que en fait c'était pour moi c'était hyper important de parler de ce moment-là parce que ça prouve qu'en fait la relation s'est vraiment enrichie, tu vois, après la vente de Mademoiselle et le fait que je l'ai quittée et que je me suis permis de te dire des trucs peut-être que je t'aurais pas dit en fait quand t'étais salarié. Peut-être aussi de te montrer un peu plus ma vulnérabilité moi de mon côté et que c'est un truc que je... Alors déjà bon, avant de la thérapie c'était compliqué de toute façon, mais surtout j'avais une posture aussi qui m'empêchait d'être totalement authentique, tu vois, en tant que boss. Effectivement tu m'as vu chialer ma race. Après Mademoiselle, après la mort de Denis, etc. Mais en fait, quand j'étais vraiment pas bien, tu vois, il y a eu des moments dans la boîte où en fait je te partageais pas tout parce qu'en fait c'était trop chiant de te faire chier avec ça.
Oui, t'avais aussi besoin que j'ai pas la tête encombrée par tout ça pour pouvoir assurer pendant que toi tu gérais, quoi.
Exactement. Là où aujourd'hui en tant qu'ami, en fait, c'est vachement plus équilibré aussi, c'est plus cool, quoi. Et en fait, le fait que Mimi me propose ça et qu'elle me le demande, tu vois, j'ai trouvé ça hyper sympa et un peu de me dire en fait, tiens, c'est mon cadeau d'anniversaire que tu me feras, je trouvais ça trop sympa. Et c'était un vrai moment privilégié, en fait, enfin, s'il y a des gens qui écoutent et qui se disent, tiens, j'ai envie de passer une journée avec mon ami à parler de la pluie, du beau temps, et juste en échange je lui demande de l'écoute, tu vois, attentive et authentique. Bah en fait moi j'étais trop heureux de t'offrir ça comme cadeau, quoi.
Ouais, bah c'était le meilleur cadeau. Et je dis ça, j'ai eu des marmites le creuset en forme de citrouille, ça pèse mes mots, c'était le meilleur cadeau, le plus précieux. Et ça rejoint un peu ce que je disais sur voilà, je sais que t'as un problème solver, donc si j'ai juste besoin de moi je vais pas t'appeler toi. En fait, je t'ai littéralement demandé ce dont j'avais besoin et ce que je voulais qu'on fasse. Je t'ai pas juste dit vas-y, on passe la journée ensemble, ou quoi. Je t'ai dit, vas-y, on parle deep, et tu me trifouilles le cerveau. Et je suis arrivée, j'étais là, ok, on va commencer par parler de ça. Et tu m'as dit, non, je pense qu'il faut qu'on parle de ça. J'étais là, en fait, c'est mon anniversaire, c'est moi qui décide. Tu m'as dit, ouais, mais tu veux le fab, et le fab, il pense que c'est pas vraiment ça ton sujet. Donc c'était, enfin, dès le début, j'étais là, putain, il est chiant.
Mais parce que tu me challenges, c'est ça que je voulais.
Et en fait, j'ai pu te dire clairement, c'est ça que j'attends. Et peut-être qu'il y a des gens qui écoutent et qui se disent, bah, comme tu dis, ah, ce serait cool de faire ça. Bah, en fait, demandez-le vraiment. Je pense que ça arrive très souvent de façon spontanée et imprévue, ce qui est cool, mais du coup c'est compliqué de trouver le temps, parfois ça arrive pas au bon moment, on est là, ah bah là on a envie de parler mais il faut, je sais pas, aller chercher les gamins ou quoi. Bah en fait, dégagez, comme des fois en couple on se dit vas-y on se prend une soirée en amoureux, dégagez-vous du temps avec vos amis pour dire vas-y on prend une soirée, et n'ayez pas peur de dire j'aurais besoin qu'on parle surtout de moi, enfin j'ai besoin de vraiment que qu'on passe du temps à parler de moi parce que là je suis dans une période de ma vie où j'ai besoin de détricoter plein de trucs, plutôt que de vous sentir obligé de dire bah ok là je vais lui demander de son côté et tout, et d'être un peu frustré de au final on n'a pas eu le temps de d'aller en profondeur sur les sujets de dont je voulais parler. Donc demandez à vos amis ce dont vous avez besoin, c'est une bonne solution pour avoir ce dont vous avez besoin.
On garde l'astuce. On arrive un peu sur les questions de la fin, et c'est des questions que je vous ai mises dans le questionnaire que je vous ai envoyé. Je voulais savoir quelle chanson vous fait penser l'un à l'autre quand vous l'entendez.
Alors moi, je pense pas que j'ai mis une chanson, j'ai dit Ben Mazuet, c'est toujours Fabrice. Et je pense particulièrement Vivant, j'aime bien Vivant.
Ah, yes.
Et La Tristitude d'Oldelaf, parce qu'on a beaucoup écouté Oldelaf dans mes premières années chez Mademoiselle, et que ça rentre dans la tête de ouf, La Tristitude. Et l'autre jour, j'ai pas entendu Oldelaf depuis très longtemps, et l'autre jour, j'étais dans un random bar, et ça a passé Oldelaf, et immédiatement, j'étais là, ah, ça me fait penser à Fab. Donc ça marchait bien.
En vrai, c'est assez facile, c'est Bruno Mars, Uptown Funk.
Ah, t'es un connard. J'y avais même pas pensé.
C'est pas possible.
Je sais pas, je me suis pas interrogée, je me suis dit, j'ai hâte d'avoir la surprise.
Mais il y a toute une histoire où Mimi s'est pété la cheville juste après que je parte en vacances, et qu'elle me dit, t'inquiète pas, je gère, machin, 24 heures plus tard, elle avait la cheville... de fracture, de la cheville, de ma boule, où moi j'étais à l'autre bout du monde, bref, c'était un bordel noir, et en fait elle s'est pété la cheville en dansant, apparemment en tombant d'une toute petite marche, mais ça a suffi à te flinguer la cheville.
Un demi-trottoir, hein, imaginez. Voilà.
Et sur du Bruno Mars, je sais pas pourquoi tu m'as raconté que ça, c'était sur Uptown Funk, et donc aujourd'hui...
Ça me semblait être un détail important.
C'est dès que j'entends Bruno Mars, je fais une petite vidéo avec ma gueule en train, et je l'envoie à Mimi en fait, en disant « Hey !» Voilà, et j'étais en Islande.
Ça fait vraiment...
Pour te dire...
5 ans.
J'étais à l'autre bout du monde, j'étais en Islande au milieu de nulle part. Et vraiment, il passe dans le bar Uptown Funk. Et j'étais avec ma femme à l'époque, et je lui dis putain, c'est Bruno Mars, je l'envoie à Mimi. Ma gueule comme ça.
Meilleure vidéo en direct d'Islande, la grosse tête de femme sur Uptown Funk.
Mami, si, il passe Bruno Mars, tu te rends pas compte.
Et j'ajouterais le générique de Succession, car on aime beaucoup le crier quand on regarde Succession.
On le chante.
On est vraiment les pires personnes.
Je vous ai demandé aussi si votre amitié était une relation fictive, vous seriez qui?
Ok, je me suis dit que peut-être on mettra la même. J'ai mis Ron Swanson et Leslie Knope.
Ah, j'avais pas du tout.
Ils sont donc, c'est dans une série excellente qui s'appelle Parks and Recreation, par le créateur de The Office, pour celles et ceux qui y voient. Donc c'est un faux documentaire. Et ça se passe dans le service administratif qui gère les parcs dans une petite ville de l'Indiana, une petite ville fictive, où tout le monde est globalement un peu zinzin, enfin c'est un peu des caricatures d'Américains zinzin. Et Leslie Knope, c'est l'héroïne de cette série, c'est une femme qui est à la fois extrêmement empathique et généreuse, qui est sincèrement passionnée du service public et qui croit en le service public, et je pense que ça parle à mon petit cœur de gauchiste, et qui a une ambition de ouf, donc elle a pas peur du tout d'être ambitieuse, elle est persuadée qu'elle va être présidente, et elle veut être présidente. Et qui en même temps, humainement, manque un petit peu parfois de skills pour connecter avec les gens. Elle est un peu contrôle fric, un peu zinzin. Et Ron Swanson, c'est son boss. Et c'est un boss qui lui, est anti-gouvernement, mais il travaille pour le gouvernement. Et du coup, sa façon d'être anti-gouvernement, c'est de rien branler. Donc il veut s'occuper de rien. Et donc, il est très content d'avoir Leslie, parce qu'il respecte vraiment les femmes, et les femmes compétentes, et il respecte complètement la compétence de Leslie. Et du coup, il la laisse bosser. Et au fil des saisons, leur relation pro devient une vraie amitié sincère. Et je trouve que c'est un super exemple de relation saine entre un homme et une femme. Il n'y a jamais le moindre truc de peut-être il la kiffe ou peut-être elle le kiffe, ce qui est trop courant dans les fictions. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et ils respectent de ouf sa compétence. Et ils ont beau être différents à énormément d'aspects, parce que lui, c'est un taiseux.
Enfin, vraiment, il parle jamais, il mange que de la viande, il aime les flingues, être dans les bois et couper du bois et que personne ne le fasse chier, alors que Leslie Knope, elle aime faire des cupcakes et tout classer dans des Excel. Donc ils sont très différents, mais ils ont un respect mutuel qui est énorme et ils ont une amitié sincère qui se développe. Et même quand leurs choix de vie font qu'ils sont moins proches géographiquement ou qu'ils se voient plus tous les jours et tout, bah ils savent que l'autre a fait les choix qui les rendent heureux et qu'ils vont juste devoir redéfinir leur relation pour qu'elle continue à être cool avec les nouveaux paramètres. Donc...
Tu nous l'as bien vendu. Et ça me donne trop envie de voir la série. Franchement, c'est hilarant. Je l'ai pas dit, c'est la meilleure comédie. C'est, pour moi, c'est mille fois plus marrant que The Office. C'est vraiment très
C'est
drôle.
Sur Amazon Prime.
Vidéo. Je crois que c'est peut-être même sur Netflix ou sur Salto maintenant, je sais plus.
Ah. Ouais. Moi, j'ai séché, je crois, là-dessus. Parce que je disais qu'il n'y a pas beaucoup de représentations fictives, en tout cas, d'amitié homme-femme qui soit. Tu vois, déséquilibré par l'âge et équilibré autant dans la relation, quoi, tu vois, j'en vois pas beaucoup. Et c'est vrai que Ron Swanson, il y a un peu... Mais je t'avoue que je l'avais pas du tout.
Hein. Maybe, je me dis, dans des trucs genre The Newsroom et tout, il y a souvent des jeunes journalistes, machin, et des mecs un peu plus seniors qui les coachent des fois un peu à la dure, tu vois, mais... Ouais.
Et c'est marrant parce que t'as séché là-dessus en parlant de votre différence d'âge et pourtant de l'équilibre que vous avez trouvé. J'ai l'impression que pourtant, c'est pas tant un sujet entre vous, l'âge.
C'en est un parce qu'on a des expériences et des vécus quand même différents. On est d'une demi-génération d'écart. Et c'en est pas un parce que ça nous a jamais empêché de... Enfin, ça a jamais empêché Fab d'apprendre de moi et de me respecter. Ça m'a jamais mené à trop te croire sur parole parce que t'es plus vieux ou quoi. Et y a aussi... En fait, c'est pas tant l'âge que des périodes de la vie. Par exemple... Depuis que t'es divorcé, tu découvres le célibat, les applis de rencontre et tout. Là où moi j'ai de l'expérience, donc en fait je peux apprendre des choses. C'est trop marrant de faire le profil Tinder du grand femme de 43 ans et d'être là en mode non, tu peux pas mettre tes emojis. Franchement, c'est cringe, tout le monde le met et tout. Mais lui, il sait pas, il découvre.
Et sérieux sur les emojis.
Non, je sais pas, ça, enfin, c'est un exemple random, tu vois, mais genre.
En train de me dire, est-ce que vraiment je suis.
Non, j'ai pas l'exemple précis. Je suis fort en emojis. Non, mais par exemple, t'aurais pu, je sais pas, mettre une vanne d'OSS 117 et pas savoir que tous les mecs bizarres de droite y mettent des vannes d'OSS 117, tu vois. Parce que juste, OSS 117, c'est marrant.
Oui.
Donc, il y a des petits codes comme ça qu'il faut avoir. Et, d'un autre côté, tu m'apprends aussi.
On a passé une soirée, elle a pimpé mon profil OkCupid, hein.
Je fais ça, voilà. Un jour, ce sera peut-être mon business. J'aurai un Patreon et je vais faire mon profil OkCupid. C'est une vraie perspective d'avenir pour moi. Car je suis un zin. Donc l'âge, enfin c'est pas tant une question d'âge que de période de la vie où toi t'as vécu des choses que j'ai pas encore vécues et que pour certaines je vivrai jamais, genre être parent. Du coup tu peux m'apprendre plein de choses là-dessus et tu vis aussi des choses que moi j'ai vécues avant toi et que, du coup je t'apprends des choses. Et en même temps là par exemple voilà, je suis avec mon copain depuis 2 ans et demi donc et on entame une nouvelle phase de notre relation, on vit ensemble, on est parti pour le long terme. Fab il a vachement d'expérience en relation long terme vu qu'il est resté 1500 ans avec sa femme qu'il a rencontrée quand il avait 17 ans. Du coup c'est beaucoup de questions que je peux lui poser que je peux pas forcément poser à mes potes qui sont aussi en couple depuis genre entre 2 mois et 2 ans quoi.
Ouais, et pour moi il y a un vrai truc où en fait on se rejoint par la culture. Moi j'ai toujours eu cette culture web depuis que je suis tout jeune quoi, tu vois, et je crois que j'ai jamais perdu, comme tu disais tout à l'heure. Effectivement il y a pas beaucoup de mecs de 45 ans qui ont un compte TikTok et qui savent comment ça marche quoi, tu vois.
Moi je comprends rien à TikTok, c'est lui qui me montre des TikTok et qui me dit vraiment t'es une boomer parce que je suis là je comprends pas l'application de ma génération.
Et tu vois, je sèche mes filles sur certains trucs parce qu'en fait elles ont pas la ref. À côté de ça elles m'apprennent plein d'autres choses aussi, c'est marrant. Et en fait, c'est un vrai problème. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de célibat. Pour moi, aujourd'hui, c'est un vrai problème dans le dating. En fait, c'est que les meufs de mon âge, on a un tel écart culturel que parfois, je sèche totalement à trouver quelqu'un avec qui ça matche en termes d'affinité culturelle, quoi. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à aller de façon assez naturelle vers des meufs un peu plus jeunes. Et donc, t'as ce truc de, ok, pourquoi tu dates des meufs plus jeunes? Ok, je comprends. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est assez compliqué, tu vois, de trouver des meufs de 40-45 ans qui ont les mêmes refs, qui ont rigolé devant Parks and Rec, et qui ont, enfin, tu vois, ce genre de conneries.
Oui, parce qu'en fait, t'es un mec chelou de 45 ans. Donc, faut trouver les meufs chelous de 45 ans. La plupart des mecs de 45 ans, ne regardent pas Succession en étant dans leur appart parisien avant d'aller faire un random podcast avec une créatrice de contenu sur Internet.
C'est ça.
Ils sont plutôt avec des monospaces et des jobs de cadre, et tant mieux pour eux.
Et ça fait 15 ans que ça dure. C'est-à-dire que je crois qu'à partir du moment où j'ai créé Mademoiselle, de toute façon, j'allais avoir une vie chelou, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai.
T'as fait un choix déjà qui était différent.
Bien sûr.
C'est quoi vos projets ensemble là pour l'avenir, si vous en avez? Vous avez dit du coup bon, la chaîne Twitch et tout, et c'est...
Bah du coup, moi je suis souvent sur
ma chaîne Twitch.
Ouais. Je n'ai pas encore de chaîne Twitch, j'en créerai une bientôt, avant l'été 2022, ok? On espère, vous avez l'exclu.
Ça annoncé,
hein. Ça va le faire normal. Mais en attendant, je suis régulièrement sur celle de Fab. En ce moment, on fait un petit rendez-vous, pas du tout régulier, mais on a entamé des questions qui ont été listées par Tim Ferriss, qui est un grand intervieweur américain, qui sont des questions qui aident à mieux se connaître. Il y en a quelques-unes. Et bah du coup, on fait ce petit rendez-vous sur Twitch où là, on en fait un dans deux semaines. Voilà, mais d'ici à ce que ce podcast sorte, je ne sais pas.
Et il sortira plus tard.
Et mais voilà, il y a ça sur la chaîne de twitch.tv/FabriceFlorent. Et il n'est pas impossible qu'on nous entende à nouveau dans des podcasts ensemble, peut-être co-créés et non en invitation. Mais on vous en dira plus sur Internet.
Le moment venu.
Voilà.
Et je le partagerai au moment venu.
Oh,
oh là là.
Ça, c'est du teasing.
C'est le moment de passer à la boîte vocale. Mimi et Fab se sont isolés pour enregistrer un message l'un à l'autre. Ils découvrent leurs mots maintenant. Et on commence avec le message de Fab pour Mimi.
Bonjour Mimi. Voilà, ma vie est bien plus cool depuis que je te connais. Et en fait, ça serait vraiment... Ma vie serait bien moins cool si je te connaissais pas, clairement. Merci pour tout, en fait. Merci pour ces 10 ans. Mais je vais rien te dire, je crois que tu ne sais pas, je ne t'ai déjà dit. Merci pour ces 10 ans, merci pour le soutien, merci pour les rires, merci pour les émotions, merci de m'avoir accompagné pendant tout ce temps-là dans cette aventure folle qui était Mademoiselle. Et en fait, j'espère que ça ne fait que commencer. Voilà, c'est simple, mais c'est efficace.
C'est maintenant Mimi qui laisse un message à Fab.
Salut Fab Flo, je suis très chanceuse d'exister dans le même monde que toi, au même endroit que toi et au même moment que toi. Je suis très chanceuse de t'avoir dans ma vie, je suis très chanceuse d'être dans la tienne, et je me dis que ça fait déjà 10 ans et en même temps ça fait que 10 ans. Et je pense que c'est important d'avoir des constantes dans la vie, et qu'une constante dans ma vie c'est toi, et c'est une très belle constante. Voilà, j'espère que t'as pas raconté que des bêtises, parce que moi après je suis touchante, mais je pense pas parce que t'es toujours touchant. Bisous, je t'aime fort.
Donc vous êtes tous les deux laissés un message l'un à l'autre que vous découvrirez à la diffusion du podcast. Merci beaucoup pour votre témoignage, et puis je mettrai de partout où on vous retrouve dans la description de l'épisode. Merci d'avoir été
merci
avec
nous. Avoir
merci
invité.
Solène, c'était super.
Trop bien comme exercice.
Grave. Mmh.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Tu trouves en description tout ce dont on a parlé dans l'épisode. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux parler de Friendship autour de toi. C'est le meilleur moyen aujourd'hui de m'encourager. Tu peux aussi me laisser un avis et beaucoup d'étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, mais aussi Castbox. Ça te prend 2 petites minutes, c'est gratuit et moi, ça m'aide beaucoup. Et pour les coulisses du podcast, je te donne rendez-vous sur Instagram et Twitter. Merci encore pour ton soutien et ton écoute, et je te dis à la semaine prochaine dans Friendship.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that.
Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer?
Je pense qu'on a ce qu'il te faut.
Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
Mais au fait, nous, c'est qui nous ?
Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast « Avant, j'étais prof ».
Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast « Friendship ».
À nous deux, on a publié plus de 140 épisodes et réuni 120 invités à nos micros.
Notre aventure podcastique a connu de nombreux rebondissements.
L'euphorie du lancement.
La solitude.
Les doutes.
La persévérance.
La passion.
Et enfin, les audiences qui décollent.
Au fil des années, nous avons affiné notre expertise.
Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité.
Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix.
Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi.